Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Midi 57 sur RMC. Salut à tous. C'est parti pour deux heures de live dans l'intégral sport jusqu'à 15 heures avant de laisser la main à Benoît Boutron pour le reste de l'après-midi et le Multiligue 1, notamment évidemment au programme. La Ligue 1 qu'on va suivre tout de suite avec Sébastien Piocelle. Salut Seb.
Salut Flora. Bonjour à tous.
Brest-Lille, coup d'envoi à 13 heures dans moins de 3 minutes maintenant. Le LOSC, fort de sa qualification en quart de finale européen, retrouve le championnat face à des Brestois. Brestois toujours deuxième, mais stoppé dans leur folle ascension le week-end dernier par une autre équipe nordiste, tiens, lance comme tous les dimanches votre rendez-vous olympique, les dernières actualités et l'invité du jour, Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France de handball, qui après un an d'absence retrouve les Bleus avec un objectif, disputer les JO l'été prochain à Paris. Et puis on reviendra sur la victoire renversante du 15 de France hier soir face à l'Angleterre pour son dernier match dans le tournoi des 6 nations, lors du bilan déjà pour les hommes de Fabien Galthié après un tournoi globalement décevant. Direction Brest tout de suite pour ce choc aujourd'hui. Bah oui Seb, on peut parler de choc quand même entre Brest deuxième du championnat et Lille est cinquième. On va retrouver Pierre-Yves Leroux tout de suite à Brest. Salut Pierre-Yves.
Salut Flora, salut Seb, bonjour à tous. Salut. Bienvenue Phil. Sur peut-être un futur stade européen.
Oui, c'est vrai.
Faut y penser, faut commencer à y penser.
Ah, on leur pose les questions tous les week-ends. On avait Pierre Lesmélou dans l'intégral sport la semaine dernière, il y a deux semaines, et il nous disait que forcément même eux commencent à y penser à cette Coupe d'Europe, même si, je le disais donc Pierre-Yves, il y a eu ce petit coup d'arrêt quand même le week-end dernier.
Ben oui, cette défaite 1-0 du côté de Lens. Alors pas véritablement un coup d'arrêt selon Éric Roy. En tout cas, c'est le discours. Et là aussi, dans sa réponse, il dit de toute façon, si on veut aller chercher l'Europe, eh bien il faut réagir et être dans une vraie dynamique. Donc ça prouve bien que ça y est, le mot est lâché. Il n'y a plus de tabou désormais. Et ce match est très important, effectivement, pour pouvoir aller rapidement, eh bien prendre un peu plus d'écart avec cette équipe lilloise par exemple, parce qu'en cas de victoire ça serait plus 7 et là ça commencerait à devenir très sérieux. On ne l'oublie pas, ces Brestois sont deuxièmes du classement toujours, et puis surtout, je le disais il y a quelques instants, ils n'ont pas pris un but ici depuis 5 matchs, et s'ils arrivent à le faire encore aujourd'hui, eh bien ça serait un record dans l'histoire du club. C'est pas arrivé depuis 1988, 5 buts d'affilée, c'est déjà un record, 5 clean sheets d'affilée, c'est pas arrivé depuis 1988. Ça rappelle une grande époque ici du côté de Brest, et sans doute que cette équipe-là, elle est en train d'effacer ce mythique stade brestois de l'époque. Donc on va voir, c'est en tout cas une rencontre très intéressante parce que du côté de Lille, ça va pas mal aussi, ça tourne bien. Le coup d'envoi qui est donné à l'instant par monsieur Turpin devant un stade à guichet fermé, comme très souvent ici à Brest. Et tout de suite, les Brestois sont à l'attaque avec à la pointe de cette attaque Satriano aujourd'hui, aidé par Del Castillo et Pereira Lage, le ballon dans les pieds des Brestois.
Seb, forcément ce match, nous on l'attend avec impatience parce que c'est ce choc entre le deuxième et le quatrième du classement, et c'est deux équipes en forme aussi et qui ont de vraies ambitions européennes annoncées, maintenant affichées.
Bah, clairement, même s'il y a eu cette défaite à Lens qui finalement dans le contenu était quand même plutôt intéressant du côté de l'équipe d'Éric Roy, c'est vrai que c'est deux équipes qui cherchent à s'installer ou à rester à leur place, et forcément c'est une vraie affiche de haut de tableau. Et puis il n'y a pas d'absent majeur hein, dans ces deux 11 de départ. On n'a pas encore parlé des compos, mais voilà, ça ressemble clairement à deux équipes type.
Ouais, c'est parti fort hein. D'ailleurs Pierre-Yves, on va peut-être les détailler avec toi aussi ces compositions, même si là il y a un bon corner pour les Brestois.
Oui, et puis une stat importante hein, on le rappelle aussi, deux équipes qui sont celles qui encaissent le plus de buts dans les 20 premières minutes, donc on va surveiller ça. Et il y avait une stat à 41%, 9 buts sur 22 encaissés dans les 20 premières minutes pour Lille et 6 sur 19 pour les Brestois. C'est parti au deuxième poteau, il y a du monde, mais il y a surtout une tête lilloise pour dégager et donner de l'air. Les compos, on va les redonner avec du côté lillois, Lucas Chevalier dans les buts, Thiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaili dans cette défense à 4. En milieu de terrain, André Gomes et Ben Taleb. En pointe, Jonathan David, c'est lui qui touche à l'instant le ballon, même s'il est côté gauche, plutôt du côté de Haraldsson, et Zegrova est de l'autre côté, côté droit. Du côté brestois, Bizotte dans les buts, Loco, Brassier, Chardonnay et Lala. En milieu de terrain, Camara, Lesmélou, Bayrou, Magnetti. Et puis devant, Pereira, Lage, Satriano et Del Castillo, l'homme le plus efficace avec 5 buts marqués et 5 passes décisives depuis le début de ce championnat.
Et forcément, on aura aussi un œil, Seb, sur le match de Monaco à 15h, parce que les deux équipes, finalement, vont regarder aussi ce match-là, aussi bien Brest que Lille, parce que Monaco peut revenir à hauteur de Brest, et puis Lille peut dépasser Monaco en cas de victoire. Donc il y a aussi ces luttes à distance, il y a tellement de concurrence aussi justement en Ligue 1 pour ces places européennes, ça va être très serré jusqu'au bout.
Ouais, encore plus avec la victoire de Nice hier à Lens, ça s'est vraiment resserré. Mais en même temps, voilà, si encore une fois, si ces deux équipes-là, et notamment Brest, se retrouvent dans cette position-là, c'est qui font une saison incroyable et qu'ils ont quand même beaucoup plus de certitude maintenant à quelques journées de la fin du championnat. Le fait de jouer à domicile aussi, forcément, c'est un atout supplémentaire, sachant que les Lillois, avant d'aller gagner à Reims et à Stumgratz aussi en Europe, c'était très compliqué à l'extérieur. Donc voilà, à voir comment ils vont être, sachant qu'ils ont quand même joué jeudi. Même s'il y a eu beaucoup de turnover.
Oui, il y a eu pas mal de turnover. Hein. Effectivement, la victoire à l'aller permettait de faire tourner pour Fonseca le ballon dans les pieds des Brestois avec Pierre Lesmelou, élu meilleur joueur de février une nouvelle fois du côté Brestois. Il a reçu un trophée tout à l'heure avant le début du match, comme Brassier, lui qui a passé le cap des 100 buts en Ligue 1. Long ballon en direction de Kenny Lala. Le centre, deuxième poteau. Il est juste, Lucas Chevalier, pour repousser du point. Et c'est Lesmelou qui avait d'ailleurs allumer la mèche sur cette action. Ce ballon, il est récupéré par Del Castillo, mais il y aura une faute sifflée par monsieur Turpin. Donc coup franc à venir pour les Lillois, qui va leur permettre de se dégager.
Pile, pour revenir juste là au turnover, parce que moi je commentais pour RMC Sport Lille jeudi. Alors tout a été calculé, bon, forcément ça a aidé, hein, le fait d'avoir gagné 3-0 à l'aller, mais tout a été calculé par Fonseca, c'est-à-dire que tous les joueurs qui ont joué le match en entier, dont Alexandro qui était peut-être un peu en balance avec Diakité, ont joué donc son remplaçant, et tous les autres ont eu du temps de jeu, que ce soit au début ou à la fin du match. Vraiment, donc tout le monde a eu un petit peu de temps de jeu, quoi qu'il arrive jeudi.
Pour rester un peu dans le rythme, quoi, c'est ça, effectivement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va voir si cette équipe lilloise, elle n'est pas gênée, justement. On rappelle que de toute façon, ils ont eu énormément de matchs là en 15 jours. Ils jouent tous les 3 jours du côté lillois, ce qui n'est pas le cas de Brest. Donc il y a la possibilité aussi, c'est un avantage, on le savait dans cette saison, de ne pas avoir de Coupe d'Europe et de pouvoir gérer un petit peu plus son temps, avec 5 minutes de jeu ici à Le Blé et toujours 0-0. Attention à ce ballon en profondeur, intéressant quand même à nouveau. En tout cas, il y a du jeu, hein. Ça part tout de suite, très vite. Tu me diras, Flora, j'étais resté un peu sur le rythme de Strasbourg peut-être, donc un peu surpris. J'ai vu que Sébastien tirait un petit peu salmine ce matin,
risque, mais on risque de dévier sur Nantes au fil de midi à un moment avec toi,
peut-être.
Dévier avec toi dans ce match, c'est sûr. On va quand même rester sur Brest-Lille pour le moment, parce que c'est vrai que oui, tu le dis, le rythme est assez plaisant dans ce début de match. Après, on sent deux équipes qui se jaugent un petit peu aussi quand même, hein.
Oui, bien sûr. Bah, on l'a dit, hein, les enjeux sont très très importants. Il faut surtout être costaud défensivement, pas prendre de but, mais il faut aussi avoir la possibilité, pourquoi pas, eh bien, d'aller prendre le pactole. Le pactole aujourd'hui, c'est 3 points d'un côté comme de l'autre, donc il va falloir à un moment quand même se lâcher. Ça aurait pu être là, mais il y a une faute. Est-ce qu'elle est sifflée par monsieur Turpin? Oui, il y a une faute effectivement du côté de Strasbourg, avec ce coup franc qui est rapidement joué par Camara. C'est lui qui avait subi la faute. On va repasser par l'arrière avec Brassier et Chardonnay du côté de cette équipe brestoise. On fait tourner, il y a des opportunités là avec cette balle en profondeur en direction de Magnetti, qui avait donné une possibilité. C'est récupéré par les Lillois avec Ismaili. On est tout près du poteau de corner là de Lille. Le retour aussi intéressant en défense de Haraldsson pour venir donner du soutien. Les Lillois sont là, bien collectifs, bien organisés pour le moment face à cette équipe brestoise qui essaye de pousser pour ouvrir le
Brest,
score.
C'est Brest, un pile qui est quand même un peu plus, on va dire, aux avant-postes, bon, ce qui n'est pas illogique, hein, à domicile. Mais les Lillois qui sont un peu en maîtrise. D'ailleurs, dans le système, ils ont changé un petit peu depuis 3-4 matchs. Ils ont inversé un peu leur triangle. On laisse vraiment Benjamin André devant la défense, et c'est Benjamin André avec Angel Gomez qui vont faire beaucoup de pressing, mais notamment sur les latéraux adverses, mais voilà, c'est très très bien huilé des deux côtés.
Oui, oui, ça fonctionne. On voit effectivement deux équipes qui sont dans le haut du tableau. Ça se sent, c'est costaud, c'est précis aussi techniquement. Voilà, il y a pas photo. Ces deux collectifs jouent le haut du tableau et vont aller chercher quelque chose en fin de saison très certainement. Le ballon dans les bras de Lucas Chevalier avec son latéral gauche Ismaili. Une nouvelle opportunité pour les Lillois d'observer, de regarder ce bloc brestois et pourquoi pas d'essayer d'aller de l'avant rapidement avec ce ballon, voilà, qui est donné côté droit. Il y a de l'espace et la possibilité de monter sur le côté droit avec Thiago Santos, le soutien de Zegroval. On est arrivé à hauteur de la surface de réparation brestoise pour cette équipe lilloise qui ne s'est pas encore créée d'occasion. Je ne suis même pas sûr que Marco Bizzozzi a eu un petit ballon à gérer simplement. Ouais, j'hésite, peut-être qu'il en a eu un effectivement dans les toutes premières minutes, mais ce n'était pas du tout un ballon dangereux.
C'est quasiment la première fois là qu'ils sont arrivés lancés dans le camp brestois.
Et ils sont vraiment lancés avec Ismaël qui rentre dans la surface de réparation, mais le bon bloc effectué en double par Lala et par Chardonnay et le dégagement derrière. Camara qui récupère, mais le ballon file en touche à hauteur de la ligne médiane. La possibilité pour Haraldsson d'effectuer cette remise en jeu.
Ouais, on va aussi peut-être rappeler le calendrier complètement fou qui attend le LOSC, Pierre-Yves, parce que c'est vrai qu'on parle de ce match aujourd'hui, mais derrière il y a des très très gros rendez-vous, et notamment dans la lutte pour les places européennes pour les Lillois.
Oui, bien sûr, des deux côtés, on arrive dans les matchs décisifs désormais avec 8 journées encore, mais des journées qui vont être effectivement très solides pour les Brestois comme pour les Lillois. Je disais que tout à l'heure pour Brest c'était peut-être un petit peu plus facile avec les déplacements notamment du côté de Metz et enfin la réception de Metz et puis Lorient avant derrière de dérouler des matchs un petit peu plus compliqués. Et puis du côté Lillois, bien sûr, il va falloir se concentrer sur une fin de match où il y aura notamment bien des adversaires solides comme Lens et Marseille, mais ça sera à domicile, donc ça c'est quand même peut-être un avantage. Et puis derrière, le déplacement en Coupe d'Europe, il ne faut pas oublier non plus ce calendrier qui va continuer à être costaud. Je surveille à l'instant le coup franc brestois, même si c'est dégagé par les Lillois et récupéré par Lucas Chevalier. Et puis derrière, Strasbourg, Metz, un petit peu plus abordable, et puis Lyon, Nantes et Nice pour terminer pour ce championnat. Ça reste... je sais pas ce que tu en penses, Seb, mais
L'enchaînement Lens. Alors déjà, Brest,
c'est plus la quantité de
Brest, matchs. Lens, Marseille, Monaco avec et au Monaco, milieu en plus.
Aston Villa.
C'est cet enchaînement-là plus que la fin de championnat.
C'est les matchs vraiment à venir pour le LOSC.
Après, ça dépend aussi de pas mal de choses. C'est en fonction des équipes qui ont des choses à jouer, que ce soit en haut ou en bas du tableau.
Ah là, pour le coup, Lens, Monaco, c'est des adversaires directs pour cette Coupe d'Europe.
Voilà, et même pour ceux qui jouent leur vie en fait ou leur survie, ça sera. C'est pas des matchs simples.
Donc, le calendrier de Brest est plus sur effectivement le bas de tableau, enfin qui vont jouer.
Mais voilà, où c'est jamais évident non plus de jouer contre des équipes qui jouent tout quasiment sur un match. Après, c'est le nombre de matchs, on va dire le nombre de matchs sur toute la saison aussi. Forcément, là, c'est avantage aux Brestois puisque les Lillois font un super parcours en Coupe d'Europe.
0-0 en tout cas, toujours entre Brest et Lille. Il est 13h10 sur AMC. C'est l'heure tout de suite de votre rendez-vous olympique du dimanche. On est à 131 jours du début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
RMC, en route pour Paris 2024.
Une compétition que vous suivrez en intégralité sur notre antenne RMC Radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avant de vous donner les dernières infos, on a le plaisir d'avoir avec nous un champion olympique qui espère bien être à Paris l'été prochain avec l'équipe de France de handball. Vincent Gérard, meilleur gardien des derniers JO, est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans l'Intégral Sport. Déjà, j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez, vous qui avez retrouvé l'équipe de France cette semaine après plus d'un an d'absence.
Ouais, c'est sûr que j'ai vécu une première partie de saison plutôt compliquée sportivement et physiquement avec mon opération d'une pubalgie qui traînait depuis trop longtemps et que j'arrivais plus à gérer. Donc très heureux d'avoir regoûté à l'hymne national, au terrain et d'avoir pu reporter ce maillot et de revivre les sensations de jouer à domicile devant le public français.
Vous en avez parlé un petit peu effectivement de cette pubalgie, l'opération qui en a suivi. C'est important de retracer aussi votre histoire pour mieux comprendre pourquoi c'est capital pour vous aujourd'hui de revenir à ce moment-là de votre carrière. Comment justement vous avez vécu cette période et cette longue absence des parquets?
Bah c'était ma première grosse blessure, c'était ma première opération, donc on est un peu dans l'inconnu. J'ai été très bien suivi, notamment et aidé par, notamment par le staff de l'équipe de France. Ça a été un peu plus compliqué avec, avec mon club qui m'a laissé me soigner en, en France. Et qui après m'a indiqué que, que je ne jouerais pas, peu importe mon niveau de jeu. Donc c'est vrai que il y a eu des moments un peu difficiles. Ouais. C'est pas facile de pas pouvoir pratiquer son métier, de pas pouvoir pratiquer son sport et d'être au quotidien dans l'attente des réponses positives de son corps.
Et c'est donc devant la télé du coup que vous avez regardé l'équipe de France, vos potes hein, devenir champion d'Europe pour la première fois depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là, Vincent? Est-ce qu'on est heureux pour son équipe, pour ses copains sur le parquet, ou alors il y a quand même un petit peu de frustration de ne pas en faire partie de cette équipe victorieuse?
Bah, déjà on sait la difficulté que c'est une compétition, que peut être une compétition. On connaît les efforts qu'il faut faire et c'est des gens avec qui on a vécu, j'ai vécu beaucoup de choses et donc j'étais avant tout très très heureux de leur victoire et j'étais content de pouvoir les voir et de les féliciter de visu parce que j'en avais eu certains au téléphone, mais c'est vrai que de visu c'est toujours mieux et de pouvoir leur partager l'émotion que j'ai pu aussi avoir, qu'ils ont pu nous procurer. Moi derrière mon écran. Après c'est sûr que c'est des moments qui sont pas forcément faciles parce que c'est la première compétition que je rate depuis 2015 je pense et on a envie d'être sur le terrain, mais néanmoins on reste les premiers supporters et il faut savoir aussi être heureux pour les gens qu'on aime et pour les coéquipiers, des coéquipiers qui se sont dépouillés pendant tout le mois de janvier.
On est avec Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France de handball dans l'Intégral Sport sur RMC. Vous n'avez qu'un seul objectif, Vincent, maintenant, c'est de tout faire pour revenir en équipe de France et disputer les prochains JO à Paris. Et pour ça, vous n'avez pas hésité à rejoindre Istres en deuxième division en février dernier, après votre départ de Kiel, vous en avez parlé. Ce choix-là de redescendre d'un échelon pour jouer, c'était une évidence pour vous ?
Non, ce n'était pas une évidence. Il y a eu plusieurs facteurs. C'est vrai que la concurrence n'étant pas assurée à Kiel et le fait est que je n'aurais pas joué, peu importe ce que j'aurais pu montrer à l'entraînement, c'était complètement bloqué. Et dans la perspective de jouer les Jeux Olympiques, c'était tout simplement impensable. Ensuite, le problème est que dans le handball, la date des transferts se fait jusqu'au 15 février. Et il fallait trouver un club avant cette date-là. Alors bien sûr, on a cherché en Ligue des Champions et le fait est qu'aucun gardien ne s'est blessé. Alors c'est très bien, ça veut dire que tout le monde s'est bien soigné et qu'il n'y a pas eu de problème. Mais moi, je me retrouvais un peu comme ça, le bec dans l'eau et Istres, c'est un club avec qui, on a une forte histoire commune. C'est le premier club qui m'a fait confiance en tant que gardien numéro 1 à l'époque en 2008. Première fois où j'étais gardien numéro 1 en première division. On a remporté une Coupe de la Ligue à Miami quand la Ligue organisait des événements à l'extérieur. Et donc les joueurs de l'époque sont devenus maintenant plutôt des dirigeants et sont dans les clubs. Et ils m'ont proposé de m'accueillir et de tout mettre en œuvre pour me mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir atteindre mon objectif de pouvoir jouer les Jeux Olympiques. Ouais. Et c'est vrai que je les remercie encore parce que ils ont fait des efforts, j'ai fait des efforts, tout le monde a fait des efforts et je vois qu'aujourd'hui ils ont envie que je réussisse et ils ont envie que je retrouve l'équipe de France, alors ce qui a été fait la semaine dernière, et ils ont aussi envie que je fasse les Jeux Olympiques et ils sont aussi à mon écoute et moi ça me permet vraiment de gagner du temps de jeu, de faire des rencontres qui sont à chaque jour à coup de fin, chaque semaine à couteau tiré. Ça me permet d'avoir aussi une régularité dans la performance qui est intéressante. Donc c'était pas forcément une évidence, mais ça s'avère être vraiment la meilleure solution.
On suit toujours Brest-Lille hein, dans l'Intégral Sport sur RMC, 0-0 entre les deux équipes, mais on est avec Vincent Gérard. Et Vincent, si je vous dis la date du 5 juillet, ça vous évoque quoi?
Le 5 juillet,
Vous ne savez pas, bien.
Ça doit être la liste, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Voilà, c'est l'annonce de la liste de l'équipe de France d'handball qui partira pour les Jeux Olympiques. Votre sélectionneur, Guillaume Gilles, a déclaré en parlant de vous, il part de très loin, mais on parle de Vincent Gérard, pas d'un inconnu ou d'un petit jeune. Est-ce que vous avez quand même la sensation que votre expérience peut jouer aussi à votre avantage? On rappelle quand même que vous avez tout gagné avec les Bleus, hein, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Même s'il y a une grosse concurrence aujourd'hui à votre poste avec des jeunes que vous connaissez très bien, d'ailleurs, est-ce que vous sentez que votre expérience peut faire la différence peut-être?
On connaît la complexité qui est une compétition que peut être une compétition comme les Jeux Olympiques. C'est totalement différent, c'est un autre univers et c'est sûr que l'expérience est nécessaire pour jouer les Jeux Olympiques parce que c'est différent. Après, il y a aussi la réalité du terrain. Il faut pouvoir performer sur le terrain, montrer qu'on peut apporter à l'équipe. J'espère pouvoir cocher ces deux critères et puis on verra. Moi, je calcule pas, je tire pas de plan sur la comète. J'essaye vraiment d'être dans l'instant présent et de reprogresser étape par étape, de reprendre de la confiance, de reprendre de l'expérience. Les 4 premiers matchs avec Istres ont été une première étape. Cette semaine avec les Bleus et les deux rencontres qui se sont plutôt bien passées pour moi, on a été une seconde. Et puis je continue dans cette voie-là en travaillant avec Istres, avec le staff de l'équipe de France pour pouvoir être au top mai-juin.
Eh bien, on vous le souhaite. En tout cas, Vincent, on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport sur AMC. Merci et bonne
Merci
saison
beaucoup.
À vous. On espère vous retrouver l'été prochain à Paris,
bon
évidemment. Merci beaucoup.
Merci.
13h18 dans l'Intégral Sport sur RMC. Pierre-Yves Leroux à Brest et Lille s'est réveillé dans les dernières minutes.
Oui, tout à fait, avec de grosses occasions pour Jonathan David et également pour Haraldsson avec un ballon poussé par Marco Bizot en corner. Il n'a pas réussi à faire un pastis à l'image de Vincent Gérard sur ce coup-là, mais la main était quand même là pour pousser le ballon suffisamment à l'écart du but et maintenir le 0-0 après 19 minutes. Mais c'est vrai que sur les dernières minutes, ce sont plus les Lillois qui poussent et on voit Benjamin André là qui commence à s'agacer des décisions de Monsieur Turpin, mais ils ont pris un petit peu la main, les Lillois, depuis quelques instants. 0-0, 19 minutes.
Allez, ça s'anime un petit peu en Ligue 1. 13h19 bientôt sur AMC. On revient tout de suite avec Sébastien Piocel pour la suite de ce Brest-Lille et on va vous donner aussi les toutes dernières infos olympiques. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
13h21, merci d'être avec nous sur RMC. On est dans l'Intégral Sport avec Sébastien Piocel. On suit Brest, Lille, le choc de la 26e journée de Ligue 1 avec Pierre-Yves Leroux. Un choc. Alors, si on suit les statistiques, on va pas avoir beaucoup de buts. On a passé les 20 premières minutes, Pierre-Yves.
Ouais,
c'est
vrai que c'est fermé, c'est ce que j'allais dire. C'est fermé à double tour des deux côtés pour le moment, puisque au niveau possession, on est à 55-45 à l'avantage des Brestois. Et puis au niveau des tirs, eh bien, il n'y a pas un tir cadré pour Brest, un seul pour les Lillois après 22 minutes. Bon, on a passé les 20 minutes, c'est vrai. Fatidique pour ces deux équipes, elles en prennent quand même, mais elles en marquent aussi. On rappelle cette stat qui est intéressante du côté Lillois, avec 8 buts inscrits, un seul but encaissé entre la 30e et la 45e. Donc soyez patient pendant 8 minutes et puis il va se passer des choses à nouveau. Et aussi au niveau du temps additionnel, puisque cette équipe lilloise, elle a marqué 5 buts après la 90e.
Bon, on sera là encore.
Voilà. Partez pas trop tôt.
Ouais,
pour sortir plus facilement du parking, ne partez pas trop tôt aujourd'hui. Restez jusqu'aux arrêts de jeu. Il peut encore se passer des choses. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très bien organisé pour le moment des deux côtés. On n'a pas vu trop les Brestois sur ces dernières minutes. Ça va peut-être être le cas. Là, avec Lesmelou, non, il n'a pas réussi à écarter. Et ce sont au contraire les Lillois qui vont repartir à l'attaque avec Jonathan David et Zegrova. Mais les Brestois se sont bien réorganisés.
On a parlé tout à l'heure de Nantes avec toi, Pierre-Yves. Et puisque Seb est là, on va en profiter. Aussi, on a suivi ensemble le Nantes-Strasbourg hier avec la nouvelle défaite des Nantais, Pierre-Yves. Et là, il y a une info qui vient de tomber. Alors, il faut quand même s'accrocher pour comprendre du côté nantais.
Ça fait quelques années qu'il faut s'accrocher pour comprendre en même temps. Voire quelques décennies maintenant. Ça fait presque 20 ans qu'on voit passer des entraîneurs. Et on va retrouver un entraîneur qu'on a... Parce qu'au bout d'un moment, il faut expliquer, Flora, que comme il y a tellement d'entraîneurs qui sont passés, donc il faut en faire revenir certains.
On va
selon nos confrères de West France et de l'équipe, puisque ce sont eux qui ont sorti l'info il y a quelques instants, eh bien Antoine Comboiré va faire son retour à la Jonelière à la place de Jocelyn Gourvennec. C'était pas forcément à l'ordre du jour hier soir après la rencontre. Jocelyn Gourvennec disait, moi je suis en tout cas pas démuni, j'ai de l'envie, mais on savait que du côté de Valdemar Kita, plus que de Franck Kita qui était allé chercher Jocelyn Gourvennec, on s'agaçait déjà depuis un moment du manque de résultats de Jocelyn Gourvennec et de son équipe, et puis de certains choix. Il était venu dans le vestiaire hier, Valdemar Kita, pour demander aux joueurs qu'on lui explique pourquoi cette équipe était si en difficulté. Certains avaient répondu tout en ayant du mal à répondre, forcément, parce que il y a vraiment des incompréhensions effectivement à voir cette équipe évoluer encore hier face à Strasbourg. Mais en tout cas, on va rechercher l'entraîneur qui a été viré il y a exactement un an pour être remplacé par Pierre Aristouille, qui a lui-même été viré en tout début de saison, pour aller chercher Jocelyn Gourvennec. Le mouvement permanent, tu le connais, Seb, à la Jonelière. Avant, c'était sur le terrain, maintenant c'est en dehors.
Dans les coulisses.
Voilà, exactement.
Ouais, j'ai un avis, mais franchement, je suis un peu désabusé.
C'est même pas
contre Antoine Comboiré, parce que on nous explique qu'il y avait plus de ressort avec Antoine à peu près au même moment de la saison l'an dernier. C'est pour ça qu'il a été remplacé par
avec les mêmes joueurs, hein,
par Pierre Aristouille, quasiment. Et là, on va rechercher un entraîneur donc avait pas les ressorts qu'il y avait quelque part un peu tout tenté ou avec ces joueurs-là en place pour justement opérer l'opération sauvetage. Là, j'ai du mal à comprendre. Alors, je peux comprendre que quasiment aucun coach n'ait envie de venir à Nantes actuellement. Je peux comprendre aussi qu'ils connaissent la maison et que ça peut aussi éventuellement l'aider à s'acclimater de suite, quoi. Il connaît la situation. Mais je sais pas comment est reçu ce message par les joueurs, sachant que tu dis pile que hier il a discuté avec certains joueurs. Donc je prends l'image par exemple de Sissoko, voilà, qui a pas toujours été c'est pas qu'il a pas joué, mais il était pas dans son assiette avec Antoine Comboiré. Je sais pas. À la rigueur, s'il y en avait un à rappeler, ça serait plus été Pierre Aristouille, à la rigueur.
C'était impossible.
Ouais, non, c'était impossible, mais c'est j'ai vraiment du mal à suivre. Et comment ça se passe si jamais, parce qu'il va il va revenir, donc a priori c'est quasiment sûr, et forcément lui il va revenir à Nantes avec des objectifs, mais s'il les atteint. C'est-à-dire qu'on repart encore de nouveau avec Antoine Comboiré. Oui.
Et on aura à nouveau cette discussion au mois d'octobre.
Il avait très clairement fait un appel du pied cette semaine, Antoine Comboiré, en revenant aux affaires médiatiquement et puis en expliquant que finalement, puisqu'il avait annoncé que ça serait sa dernière expérience du côté nantais en termes d'entraîneur, il avait dit finalement j'ai bien envie d'entraîner à nouveau, mais ça n'a pas mis longtemps.
Prime vidéo
bon timing. Bon timing. Ouais, on suivra tout ça. Ouais. On va peut-être regarder le coup franc avec toi quand même. Pour le LOSC, un bon coup franc face à Brest là.
Même s'il y a 0-0 après 27 minutes, il se passe toujours des choses du côté du terrain, avec ce coup franc qui est vite joué par les Lillois. Une tête brestoise, en l'occurrence celle de Loco, sur ce coup franc tiré par Angel Gomez. On va écarter côté droit avec Zegrova, les Lillois qui continuent à pousser 0-0 après 27 minutes. Et attention là, Zegrova qui va pouvoir peut-être se retrouver en position de frappe. Là voilà, la frappe, et c'est bien capté par Marco Bizot, qui a de quoi maintenant rentrer vraiment dans son match. Il est sollicité et il va pouvoir relancer à la main. Avantage au point pour les Lillois pour le moment.
Il a un peu de réussite sur l'action, mais ils ont plus de mal, les Lillois, quand même, sur les attaques placées. On a vu que par contre, à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon dans leur camp, enfin, ou près de la ligne médiane,
ça va vite. Effectivement, mais là, ce sont les Brestois qui sont rentrés dans la surface. Satriano va pas pouvoir récupérer, mais derrière, oh, le poteau qui est trouvé par Romain Del Castillo, la frappe du gauche qui va s'écraser en bas du montant de Lucas Chevalier. La plus grosse occasion, elle est donc brestoise dans cette première demi-heure. Franchement, j'étais juste dans l'angle. J'ai cru qu'il avait suffisamment enroulé son ballon pour qu'elle aille petit filet. Eh bien non, c'est le poteau qui sauve les Lillois et qui réveille un peu Francis Leblay. 0-0 toujours.
Ça va s'emballer, ça y est, c'est parti, 0-0. Donc on est toujours au cœur de votre magazine olympique, en route pour Paris 2024 dans l'intégrale sport sur RMC. Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France de handball, était notre invité il y a quelques instants. Place maintenant à l'actualité olympique avec Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour à tous.
Et en une bonne nouvelle pour nous Français et pour Jimmy Gressier qui est en mode supersonique.
Oui, ce n'est pas une discipline olympique, mais c'est d'une très bonne nouvelle, un très bon marqueur. En tout cas, ça vient de tomber, ça s'est passé à Lille. Record d'Europe du 10 km sur route pour Jimmy Gressier. 27 minutes et 7 secondes, 6 secondes de moins que le précédent record du Suisse, Julien Loinder. Donc record d'Europe du 10 km sur route pour Jimmy Gressier. Plus de bons résultats pour les Français ce week-end dans différents sports en escrime. Sarah Balzer remporte l'épreuve de Coupe du Monde de Saint-Nicolas. C'est du sabre. Oh, ça se passe donc à Saint-Nicolas en Belgique. Succès 15 touches à 8 en finale contre la japonaise Emura, double championne du monde. Troisième victoire de la saison pour Balzer, numéro 1 mondial dans cette arme. En surf, Joanne Defay s'impose à Peniche au Portugal. Elle domine l'Australienne Taylor Wright en finale. Sixième titre sur le circuit. Defay grimpe au deuxième rang mondial au saut Hermès. C'est une épreuve de saut d'obstacle au Grand Palais éphémère. Simon Delestre remporte le GL Event, une épreuve de vitesse avec des barres à 1m50. Delestre victorieux avec sa jument Olga Van de Kruijshove. Deuxième place pour un autre tricolore, Philippe Rosier avec son partenaire Le Coultre de Muse. On connaît les chapeaux des équipes de France de basket pour les Jeux Olympiques, Flora. Les garçons et les filles sont dans le chapeau 3. Pour des raisons de diffusion télé, les garçons ne pourront pas tomber contre les Américains versés dans le chapeau 1. Les filles, en revanche, n'auront pas cette assurance. Tirage au sort mardi en Suisse. En handball, on a appris la retraite internationale de Valentin Porte. Ce sera après les JO à Paris. Porte, champion olympique, double champion du monde et champion d'Europe. De nouveau qualifié pour le tableau masculin. Donc deux potentiels adversaires pour l'équipe de France de Guillaume Gilles, qui sont champions olympiques en titre. Ce sont les Norvégiens et les Croates qui ont remporté leur TQO. Ils seront à Paris. Début de la saison en grand bassin, c'est de la natation pour l'équipe de France. Ça se passe à Nice pour le Giant Open avec Maxime Grousset, le champion du monde du 100 mètres papillon. Retour aussi pour Florent Madoudou après un stage en Australie et en Afrique du Sud. Et une devinette, Flora, pour terminer cette page olympique, ce journal. Qu'est-ce qui sera violette et rapide aux Jeux Olympiques?
Waouh! La piste?
Oh, la piste.
Ah oui, oui.
La piste d'athlétisme du Stade de France, elle est en train d'être confectionnée en ce moment, alors pas en France, mais dans le Piémont italien, à Alba, un petit village au sud de Turin. On y fabrique les pistes olympiques depuis les Jeux de Montréal en 76. Maxime Thiette a pu visiter l'usine Mondo pour la voir de plus près. Reportage.
C'est presque au milieu des vignes qu'est fabriquée cette piste violette inédite commandée par Paris 2024. Elle a demandé beaucoup de travail, admet Andrea Marenghi, responsable recherche et développement du site.
Obtenir en couleur exactement comme les comités olympiques nous ont demandé a été difficile. On a travaillé pendant quelques semaines. La chose la plus importante n'est pas uniquement développer la couleur, mais vérifier la tenue de couleur pendant les temps. Et donc vérifier si la résistance de couleurs exposées à la soleil, exposées au rayonnement UV, exposées à la pluie, garde son couleur pendant les temps.
Plus de 13 000 mètres carrés de ce revêtement violet vont être posés à partir d'avril au Stade de France. Alessandro Piccedi, l'un des responsables de Mondo, en dévoile la composition.
Pour le site est composé de 4 grandes familles. Les caoutchoucs, qui peuvent être les caoutchoucs naturels ou synthétiques. Après, on a des pigments. On a aussi ce que nous on appelle additifs chimiques et de l'huile plastifiante qui servent lui aussi à donner le bon degré de plasticité.
Et avec environ 50% d'ingrédients recyclés ou renouvelables, cette recette plus verte promet aussi un meilleur renvoi de l'énergie aux athlètes. Autrement dit, un meilleur rebond sous le pied, assure Andrea Marenghi.
On est convaincu qu'on pourra obtenir des résultats meilleurs que tout. Mais je dois dire, les athlètes sont ceux qui obtiennent les résultats. Ceux qui dessinent la piste cherchent simplement de donner aux athlètes la possibilité de s'exprimer dans la manière la meilleure possible. Paris sera vraiment une édition olympique incroyable.
Trois records du monde avaient été battus à Tokyo. On espère donc en voir un peu plus cet été à Paris.
Merci beaucoup Morgane Maury pour cette actualité olympique.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Le coup franc lillois à Brest, Pierre-Yves Leroux.
Ouais, c'est chaud, une nouvelle fois dans la surface de réparation des Finistériens qui vont réussir à se dégager, même à récupérer la touche puisque c'est Haraldsson qui l'a touché en dernier. Mais il y a toujours 0-0 après 33 minutes, mais les Lillois étaient tout près d'ouvrir le score il y a quelques instants avec Zegrova qui se retrouve au point de pénalty et Marco Bizot qui va sortir un ballon énorme. Et d'ailleurs, il va se retourner derrière vers les Celtics Ultra qui sont juste derrière lui et serrer le point parce que franchement, cet arrêt était magnifique. On a deux grosses occasions, une de chaque côté dans ces dernières minutes. 34e maintenant, 0-0. Mais voilà, il faut être efficace, un petit peu plus efficace du côté des attaquants pour pouvoir faire trembler les filets parce qu'on a deux gardiens là qui sont pour le moment au top, même si Lucas Chevalier était aidé par son poteau.
C'est plutôt plaisant quand même comme match, ouais. Même s'il manque.
Il manque juste un but
ouais,
en fait.
Ouais, c'est ouais. Ça, il manque les buts. Mais c'est vrai que finalement, c'est deux équipes. Alors oui, les 5-6 premières minutes qui se regardaient un petit peu pour mieux appréhender le match. Mais c'est vrai que ça se passe plus dans les contre-attaques hein, finalement, là où il y a un peu d'espace. Et techniquement, mis à part sur le dernier geste, il y a quand même des joueurs qui sont hyper intéressants dans les passes, dans les transmissions. Mmh. Et c'est vrai que on sait pas, peut-être qu'il y aura un 0-0. Je sais que t'aimes pas ça, Flora, mais
s'il est plaisant, moi je veux bien. Hein, et j'ai pas de problème avec ça, mais
en tout cas, c'est pas forcément le résultat qui arrangera l'une ou l'autre des équipes.
Ouais, exactement. Vu la lutte pour les places européennes en Ligue 1, 0-0. Donc toujours, on va suivre aussi dans l'intégral sport la deuxième manche du slalom homme. Ça se passe en Autriche avec Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut Flora. Salut à toutes et à tous. Avec un vice-champion olympique actuellement sur la piste, l'Autrichien Johannes Strolz, quatrième coureur à s'élancer. Pour l'instant, c'est Eiji Ginis, vainqueur l'an passé du slalom de Chamonix. Le Grec qui est actuellement meilleur temps provisoire à l'issue des deux manches, mais il reste encore 21 skieurs à s'élancer. Et parmi eux, le champion olympique, celui qui justement à Yongqing avait devancé Johannes Strolz. C'est notre Français Clément Noël qui a réalisé le quatrième meilleur temps de la première manche sur la piste de Zalbar en plein soleil, avec une piste qui va quand même pas mal se dégrader pour les derniers dossards, mais on espère que cela puisse permettre malgré tout à Clément Noël de se hisser sur le podium, voire même de, pourquoi pas, remporter sa première victoire de la saison. Il n'a pas gagné, il a fait des podiums cette saison, mais sa dernière victoire en Coupe du Monde remonte à Schladming l'an passé. Ça commence à faire.
On va suivre évidemment tout ça avec toi, Arnaud. 13h35 dans l'intégral sport sur RMC. On revient tout de suite pour la suite de ce Brest-Lille, toujours 0-0 entre les deux équipes. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. On est de retour sur RMC avec Sébastien Piocelle. Il est 13h36. On suit la Ligue 1 et ce Brest-Lille qui a du mal à se décider. Pierre-Yves Leroux, on va vivre les 10 dernières minutes de cette première période avec toi pour espérer peut-être un petit but qui va venir un petit peu changer les choses, un petit peu bouger tout le monde peut-être.
Oui, c'est sûr que on le redit encore, les enjeux sont énormes en termes de Coupe d'Europe, surtout de place dans ce classement, et que le moindre but pourrait changer la face de l'avenir de ces équipes sur cette saison. Donc il est très très important, à l'image aussi de ce qui peut se passer dans une confrontation en bas de classement. Là, c'est capital, réussir à marquer un but. Donc tout le monde est très très attentif du côté des défenses. Pour le moment, c'est vrai que c'est très solide, et il faudra aller chercher vraiment le tir très précis, l'action qui va réussir à perturber le bloc adverse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a eu un poteau pour les Lillois qui les a sauvés, et puis un magnifique arrêt de Marco Bizot. Il y aura d'autres occasions très certainement, parce qu'il y a de la qualité des deux côtés. Le ballon est pour le moment dans le camp brestois, avec le bon boulot signé Ismaili, que je trouve d'ailleurs très intéressant là sur son côté gauche pour apporter offensivement. On le voit, Seb aussi
défensivement aussi pile. Tout à l'heure il y a eu Magnetti, et là il y a eu juste avant il y a eu Camara. Là ça peut venir aussi des milieux de terrain lancés du côté de Brest. Ils leur font assez mal entre le latéral et le central lillois. C'est, à mon avis, ils doivent continuer un petit peu sur ça, les Brestois.
D'ailleurs, j'ai été surpris que Camara mette un ballon si fort, parce que son centre aurait dû être un petit peu plus tendre, entre guillemets, pour permettre à ses coéquipiers de la récupérer. Là, c'était vraiment un parfum, j'ai envie de dire. C'était très compliqué, c'est arrivé.
Déjà, il a fait la course, donc. Il fait une très très belle saison d'ailleurs.
Oui. Et aussi, il faut le préciser, il fait une très belle saison en dehors. C'est-à-dire que c'est un des animateurs du vestiaire avec Hugo Magnetti, et on sait combien l'ambiance dans un vestiaire c'est important. Et ces deux-là sont à la baguette. Il faut vraiment le dire. Si on écoute le capitaine Gaëtan Chardonnet, il dit là, ces deux-là sont complètement fous. On n'arrive pas à les tenir. Ils crient partout, mais ça participe aussi. Ouais, ça participe aussi du succès de Brest cette année, évidemment. Coup franc pour cette équipe brestoise, cette fois dans le camp lillois, un petit peu loin des buts de Lucas Chevalier, mais pourquoi pas amener aussi sur un coup de pied arrêté la différence et la solution. On va surveiller ce coup de pied arrêté frappé par Romain Del Castillo. C'est très très long et c'est directement dans les bras de Lucas Chevalier. Dommage parce qu'il y avait la puissance, mais même un petit peu trop, et c'est trop facile pour le portier lillois qui attend une solution. Et ça va passer à nouveau par le côté gauche avec Ismaili dont je vous parlais il y a quelques instants. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période, toujours 0-0 sous le soleil finistérien.
Voilà, du mal Seb à pencher d'un côté plus que de l'autre finalement dans cette fin de première période, à pouvoir pronostiquer qui va faire la différence. C'est compliqué, c'est serré quand même.
Il n'y a pas vraiment une équipe qui domine.
Ouais, exactement.
Ils ont un petit peu chacun leur temps fort, même s'il n'y a pas eu de temps très très fort. Et c'est vrai que pour l'instant c'est dur à pronostiquer. On sait aussi que les Brestois, grâce aussi à leur public, ils peuvent à un moment donné emballer la rencontre. Et puis chacun aussi, je pense qu'il y aura du coaching. On l'avait vu notamment la semaine dernière avec Paulo Fonseca qui avait fait un coaching très offensif. Ouais. Où ils étaient menés 2-0 par Rennes. Mais voilà, donc après ça aussi, ça peut aussi jouer en seconde mi-temps pour faire changer le match.
On est à l'instant T à 50% de possession de chaque côté. Donc voilà, c'est vraiment...
Notre analyse est juste, c'est ce que tu nous dis. Voilà.
Exactement. Le ballon dans les pieds de Magnetti. Magnetti avec Lesmelou à hauteur du rond central. Lesmelou qui va choisir le côté droit pour Kenny Lala. Kenny Lala, il a la possibilité, mais c'était trop tard. C'est dommage parce qu'il y a eu l'appel de Satriano. Et entre le moment où il y a l'appel, il s'arrête. Et c'est au moment où il y a le coup de pied et ça file directement en sortie de but. Donc là, c'était pas le bon timing, on s'est un petit peu mal compris entre les deux hommes, et ça va permettre une nouvelle fois à Lucas Chevalier de dégager. Si on jette un coup d'œil justement sur la feuille de match et sur les possibilités offensives de changement, il y a Steve Mounier, il y a Jérémy Le Doiron du côté brestois par exemple, ou Jonas Martin en milieu de terrain. Il n'y aura pas en revanche, je vous le dis, Boidy du côté lillois. Il est bienvenu à Brest, mais quand il s'est réveillé ce matin, il était malade, donc il n'est pas sur la feuille finalement. Mais il y a d'autres possibilités avec Yazid Che notamment,
Rémi Cabella qui a fait un très bon match jeudi dans un match un peu moyen, un peu géré par les Lillois, et il revient de blessure, et lui aussi il est habitué à être très très intéressant quand il rentre en jeu.
Et il pourrait mettre un joli tampon sur la feuille de match parce que ça serait sa 300e apparition en Ligue 1. C'est pas mal de pouvoir.
Ça vaut bien un maillot, ça, il devait me le donner.
Je vais le redire après.
Moi, j'ai redit, donc je vais pas porter chance.
Résultat, il est malade.
Voilà, parce qu'il est de l'Oise comme moi, mais pour Rémi Cabella, bon, une 300e, déjà, c'est pas anodin du tout. Mais c'est vrai que c'est un joueur un peu différent de ce qu'on voit là sur la pelouse du côté lillois. Il peut faire une autre palette,
effectivement. La main, elle est vue de Haraldsson dans la surface de réparation. Coup franc pour les Brestois. Plus que quelques minutes, 2:30 exactement dans le temps réglementaire. Il n'y aura pas beaucoup de temps additionnel. Cette première mi-temps n'a pas été hachée, arrêtée.
Comment ils se comportent les deux coachs?
Fonseca s'est un petit peu agacé tout à l'heure sur une décision arbitrale. Ils sont dans des attitudes assez similaires, c'est-à-dire actives, à faire de grands gestes. Eric Roy actuellement demande à tout son bloc de remonter, à faire signe à tout le monde d'être au-delà même du rond central, puisqu'il n'y a plus qu'un homme dans le rond central, il n'y en aura plus dans un instant. Donc les 10 joueurs de champ sont tout là-haut pour essayer de bloquer cette équipe lilloise. Ça va peut-être payer d'ailleurs avec ce ballon récupéré par la défense brestoise, avec dans un premier temps Brassier. On est reparti sur le côté gauche avec Loco, mais attention parce que Loco a perdu son ballon, et comme tu le disais, c'est peut-être dans phases de jeu de contre que ça peut aller vite et changer la phase de cette rencontre. Et bien, ce ne sera pas sur ce coup-là parce que Zegrova a pris un bon tacle tout à fait réglementaire selon Monsieur Turpin.
Même Jonathan David, non, c'est lui aussi qui a pris.
Le deuxième, il est pour David, il reste au sol. Alors finalement, Clément Turpin va arrêter le jeu, mais il n'avait pas sifflé coup franc. Il y a eu deux tacles consécutifs, viril mais correct, à l'anglaise. Ici, il a voulu laisser jouer Monsieur Turpin, mais finalement, il arrête le jeu à 1 minute 20 de la fin du temps réglementaire. Toujours 0-0 entre Brest et Lille.
Il fallait bien que ça se durcisse un petit peu dans cette fin de première période. On sent aussi l'enjeu. Enfin, pourquoi c'est aussi serré aussi dans ce match-là? C'est parce qu'on sent l'enjeu aussi pour les deux équipes. On les sent, voilà, pas trop vouloir se découvrir non plus, parce qu'on a vu que sur quelques opportunités, Brest a touché le poteau. Il y a une grosse parade aussi du gardien brestois en face, une occasion lilloise. Il y a des possibilités, donc on sent qu'on n'a pas trop envie d'ouvrir le jeu non plus.
Ouais, puis c'est un des tournants, comme on l'a dit. On arrive sur la fin de saison, et puis il y a des tempos, des temps dans le match, justement là, juste avant la pause ou au retour des vestiaires.
Il faut être,
vigilant. Après, on disait que c'était pas déplaisant parce que techniquement, c'est quand même correct. Il y a eu quelques opportunités. Et voilà, c'est deux équipes qui se valent. Une, on va dire Brest, qui n'est pas forcément à sa place, mais qui l'a mérité quand même. Et puis Lille, qui est habitué ces dernières années justement à louper à chaque fois la marche pour aller un peu plus haut, mais qui prend de l'expérience avec la Coupe d'Europe. Donc non, il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur cette partie.
Et on s'approche de la fin de la première période.
Oui, on va connaître le temps additionnel dans un instant, s'il y en a, ce n'est pas certain, parce que dans 10 secondes, on sera aux 45 minutes et je ne vois pas de tableau amené par le quatrième arbitre, donc c'est qu'il n'y aura pas de temps additionnel et monsieur Turpin, après cette remise en jeu, va très certainement siffler la pause. Il ne va même pas attendre la touche. Retour au vestiaire pour tout le monde et 0-0.
Merci beaucoup Pierre, et on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Seb, une première période plutôt plaisante. C'est vrai qu'il nous manque évidemment ce but, mais on en parlait de cet enjeu aussi, ça contient un petit peu tout le monde, mais ça reste plaisant cette affiche.
Ouais, c'est vrai que on a eu un petit peu de mal à rentrer dans la partie, et après il y a eu deux trois occasions par équipe, mais après voilà, techniquement c'est intéressant, et puis tactiquement aussi, parce qu'il y a ça aussi des deux côtés, on est bien en place, il y a aussi du mouvement pour le porteur du ballon, et on l'a vu en termes de statistiques, c'est du 50-50 même dans la possession, donc c'est assez équilibré, ça va se jouer encore une fois comme pour le haut niveau sur certainement des détails ou sur un détail.
Ouais, on verra ça en seconde période. 0-0 donc entre Brest et Lille. Il est 13h45 sur RMC dans l'Intégral Sport. Vous allez suivre évidemment cette seconde période dans quelques instants. Si vous étiez à l'écoute d'RMC hier soir, vous avez vibré avec nous pour la victoire du 15 de France. Seb, 33-31 face à l'Angleterre, dernier match du tournoi destination. Lors du bilan aussi maintenant pour les Bleus de Fabien Galthié, et ce bilan on va le tirer tout de suite avec Julien Landry. Salut Julien.
Salut Flora, salut Seb, salut à
tous. Salut.
Je parlais de cette victoire renversante, spectaculaire, un rebondissement, tout ce qu'on veut comme adjectif, Julien. Est-ce que ça suffit malgré tout à sauver ce tournoi un petit peu décevant de l'équipe de France ?
Bon, battre les Anglais, ça sauve toujours un tournoi, quoi qu'il en soit.
Surtout
comme ça, à la dernière minute, avec une pénalité de 50 mètres. Voilà, battre les Anglais, c'est toujours la meilleure manière de terminer ce tournoi. On se rappelle que l'année dernière, ils en avaient mis 50 du côté de Twickenham. Mais non, clairement, il ne va pas falloir oublier tout ce qui s'est passé pendant le tournoi. C'est trois premiers matchs très poussifs. Cette humiliation contre l'Irlande, cette victoire à l'arraché contre l'Écosse, ce moment de gênance contre l'Italie. Ça va pas sauver, mais on sent malgré tout que depuis deux matchs, cette équipe de France remonte un petit peu, injecté évidemment par le sang frais, qu'il y avait des choses à digérer, et que ce tournoi, même si il ne sera pas mémorable, les Français vont le terminer à la deuxième place, et c'est aussi un bon moyen pour peut-être apprendre pour ce jeune groupe. Et puis Fabien Galthié l'a reconnu hier soir, ça a été évidemment des semaines très très compliquées pour l'équipe de France. Je vous propose de l'écouter.
On a vécu un tournoi d'enfer. C'était brûlant, il n'y avait pas de répit. On était tout le temps sur la brèche. On était parfois sur la cime. On était parfois sur la tranche. Il fallait être solide. Je parle des joueurs, je parle du staff. Parce qu'à un moment, il fallait que nous, on apporte aussi de la puissance. Quand on sentait que les gars, ils en manquaient un peu, qu'ils doutaient, qu'ils étaient un peu chahutés. Parce que si on les prend, on a envie de vivre des bons moments. On a vécu autre chose.
Alors on a senti un discours un petit peu différent aussi de Fabien Galthié après les autres rencontres. Julien, la défense du 15 de France a posé beaucoup de questions dans ce tournoi destination, et hier encore on l'a vu, loin d'être rassurante, avec à nouveau 4 essais concédés. Ça va être un vrai chantier de travail pour Fabien Galthié et son staff. Hein.
Ouais, parce qu'on se rappelle que lorsque Fabien Galthié est arrivé avec dans sa valise Sean Edwards, l'architecte de la défense du Pays de Galles, et c'est vrai que pendant les trois premières années du mandat de Fabien Galthié, l'équipe de France s'est appuyée sur cette grosse défense avec la dépossession, cette capacité à récupérer vite les ballons et à contrer, piquer l'adversaire en marquant des essais. Et c'est vrai que depuis, finalement, on a tendance à l'oublier, mais déjà depuis le début du tournoi de la saison dernière, la défense commençait à montrer des signes de fatigue. Pendant la Coupe du Monde également, l'équipe de France a encaissé beaucoup d'essais, beaucoup plus que d'ordinaire. Et c'est vrai que là encore, sur ce tournoi, il y a eu les essais encaissés contre les Irlandais. attendait. Encore hier soir, le milieu du terrain qui a été très friable pour cette équipe de France. Alors évidemment, on a tendance à dire que l'équipe de France est en train de se réapproprier un nouveau jeu, fait un peu plus de possession, d'attaque, et que du coup, quand tu accentues sur un secteur de jeu, parfois tu laisses un petit peu de côté l'autre secteur. Alors évidemment, Sean Edwards ne doit pas du tout apprécier les performances défensives en ce moment de son équipe de France, et qu'il va falloir évidemment remettre l'accent sur ça. Mais c'est aussi lié aux évolutions des règles, où les défenses ne sont plus forcément avantagée, favorisée par l'arbitrage, et que du coup l'équipe de France est en train aussi un petit peu de faire évoluer son jeu, fait d'un peu moins de dépossession, un peu plus de possession, et du coup c'est vrai que défensivement ça pose problème. Mais clairement hier il y a des essais, notamment en fin de première période, début de deuxième période, qui sont trop facilement encaissés et qui peuvent forcément pénaliser l'équipe de France pour des matchs où ça sera encore très serré.
On a beaucoup parlé évidemment de Fabien Galthié, il faut quand même lui reconnaître quelque chose, il a tenté des choses dans ce tournoi, et tout n'est pas acheté, et loin de là d'ailleurs, Julien.
Oui, alors il a tenté, contrat inforcé parfois, voilà. On a quand même tendance à dire. C'est vrai que la blessure de Mathieu Jalibert, le carton rouge de Jonathan Danty ont rebattu un petit peu les cartes de cette équipe de France. Je pense que sans ces cas-là, peut-être qu'il n'aurait pas changé. Et puis finalement, il a été obligé de changer, avec évidemment les performances un peu décevantes de Maxime Lucu. Il a lancé Nolan Le Garec à la mêlée, qui est aujourd'hui a fait un excellent tournoi, et qui est une excellente doublure à Antoine Dupont. Il est passé devant Maxime Lucu. Nicolas Deporter, réclamé à corps et à cri par les suiveurs de l'équipe de France, a été lancé dans le grand bain à Cardiff, et il a réalisé lui aussi des performances dans un profil bien différent de Jonathan Danty. Léo Barré à l'arrière également, lancé dans le grand bain, a été époustouflant hier soir dans la capacité qu'il a à attaquer la ligne, à accélérer. Thomas Ramos, qui a été si bon en numéro 10 avec Toulouse, a également assuré hier soir dans ce poste-là. Et puis évidemment, la deuxième ligne qu'on attendait depuis le début du tournoi, Meafou Flamand, a répondu présent. Meafou, qui connaissait ses premières capes sur ce tournoi, apporte évidemment de la puissance. Donc oui, il y a du changement. Oui, il y a du sang frais, du sang neuf, qui a évidemment fait du bien à l'équipe de France après cette Coupe du Monde qui est probablement encore traumatisante, oui. Même si on a du mal encore à le comprendre. Oui. Mais c'est vrai que ce sang frais apporté à l'équipe de France a fait du bien sur cette fin de tournoi.
Et maintenant, du coup, Julien, pour ce 15 de France, quelles sont les prochaines échéances pour Fabien Galthié et ses joueurs ?
Eh bien alors, la prochaine séance, ça va être la tournée cet été du côté de l'Argentine et de l'Uruguay, où évidemment les joueurs premium vont être dispensés de cette tournée-là. On pense au Aldrit, au Marchand, au Ficou, au Thomas Ramos justement. C'est l'accord avec la convention, le tournoi d'été est censé permettre à des jeunes joueurs de se développer. On se rappelle que c'est sur ces tournées d'été qu'Anthony Jelonch avait éclaté au grand jour, tout comme Melvin Jaminet. Donc on pourrait voir cet été de nouveau Possolo Tulagi en deuxième ligne, les jeunes champions du monde des moins de 20 qui sont en train également de monter. On pense à Royce de La Rochelle, on pense évidemment à Emilien Gailleton, qui est toujours dans l'antichambre mais qui n'a jamais eu sa chance. Voilà, cet été va être permettre pour l'équipe de France en développement, on appelle, d'acquérir aussi de l'expérience, d'avoir quelques caps et peut-être d'aller taper à la porte pour la tournée du mois de novembre. Mais voilà, le prochain rendez-vous pour l'équipe de France, c'est cet été du côté de l'Argentine, où on devrait découvrir des nouveaux joueurs avec le maillot de l'équipe de France.
Merci beaucoup Julien, on continue de parler rugby toute la journée sur RMC évidemment, et notamment dans Bartoli Time ce soir. Dès 19h, Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet reçoivent Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby. Et puis demain, dès 15h, un super Moscato Show spécial tournoi Destination. Vincent Moscato et toute son équipe seront entourés d'invités prestigieux, dont notamment Nicolas Deporter, le centre du 15 de France et de l'UBB. 13h52 sur RMC. On revient tout de suite pour la seconde période de Brest-Lille. 0-0 à la pause entre les deux équipes.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Bientôt 14h sur AMC, merci d'être avec nous. On vous accompagne jusqu'à 15h dans l'Intégral Sport. Après, ce sera le Multiligue 1 avec Benoît Boutron et Sébastien Piocel, qui est déjà avec moi. Ça va, Seb ?
Ça va.
Bon après-midi de Ligue 1. On suit Brest-Lille. On est à la mi-temps. Ce petit ça va de Seb Piocel, c'est parce qu'il y a 0-0 entre Brest et Lille, la seconde période.
Ou par rapport à Comboiré,
par exemple, à Nantes. Aussi, ouais. Effectivement, l'occasion, parce que ça n'a pas encore repris du côté de Brest, ça va reprendre dans quelques instants. L'occasion d'en reparler, de vous redonner cette information. Si vous nous rejoignez sur RMC, sachez que Jocelyn Gourvennec va être remercié par le FC Nantes et remplacé par Antoine Comboiré. Et non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une histoire sans fin du côté du FC Nantes. Antoine Comboiré qui avait été remercié il y a un an déjà, remplacé ensuite par Pierre Arissoui. On a du mal à suivre tout ce feuilleton nantais.
Seb, je sais que tu es assez sceptique. Je lis un peu sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que c'est normal parce que le cirque continue. Mais ouais, je suis sceptique. Voilà, savoir si c'est l'homme idéal alors qu'il avait été remercié ouais. Parce qu'il n'avait pas les ressorts hein, l'année dernière à peu près à cette époque-là. Savoir aussi s'il y arrive, ce que je souhaite quand même, est-ce qu'il va du coup rester au FC Nantes derrière, est-ce qu'il va prolonger derrière, ouais. Donc on repartirait de nouveau
s'il
là-dessus.
S'il arrive à se maintenir avec Nantes.
Ouais. Voilà, donc non, c'est j'ai envie de dire c'est un peu du quita de ces dernières années, voilà.
Donc, et en même temps, tu avais une remarque juste aussi tout à l'heure. Qui, dans ce contexte-là aujourd'hui, a envie de s'engager dans cette mission maintien avec le FC Nantes, c'est pas simple non plus de trouver un candidat.
Il y a toujours des entraîneurs qui sont prêts à jouer les pompiers de service, même avec des dirigeants très compliqués. Mais c'est vrai que la question se pose. Après, avoir quelqu'un là où je reconnais peut-être le côté positif, qui connaît le championnat, qui connaît le contexte nantais, qui connaît aussi une partie du vestiaire. Ouais. Bon. Mais c'est vrai que c'est une mission très compliquée, sachant qu'il y a un calendrier aussi qui est pas évident pour les Canaries.
Pour se maintenir, effectivement. On a retrouvé Pierre-Yves Leroux, parce que ça va reprendre tout de suite à Brest pour cette seconde période.
Oui, exactement. Tout le monde est en place. Clément Turpin donne le coup de sifflet et c'est parti entre les deux équipes. 0-0 en première période. 49-51 au niveau de la possession. Pour vous donner un peu l'équilibre de cette rencontre, il y a eu plus de tirs brestois, mais moins cadré, 7 tirs au total, un seul cadré, 4 tirs du côté lillois, 3 cadrés plus précis du côté de cette équipe lilloise, à l'image de cette grosse occasion pour Romain Del Castillo qui va s'écraser sur le poteau, donc ce n'était pas cadré, alors que la frappe de Zegrova face à Marco Bizot était parfaite, mais c'est le portier brestois qui a sorti ce ballon et évité l'ouverture du score lilloise. On est reparti depuis 40 secondes, il n'y a pas eu de changement, ni d'un côté ni de l'autre. Ça interviendra certainement dans un petit quart d'heure ou un peu plus. On verra quel est le choix de Fonseca et d'Éric Roy pour faire tourner et trouver peut-être de nouvelles solutions. Une nouvelle fois le ballon dans les pieds de cette équipe lilloise avec Haraldsson plein cœur de jeu qui va écarter sur Ismaili le petit exter. Oh, c'est mal dégagé. Haraldsson qui va pouvoir la récupérer. Les Brestois un petit peu en difficulté dans leur surface de réparation, mais qui réussissent à repousser ces nordistes jusqu'à la ligne médiane. Quasiment, ça va quand même revenir. Attention, avec Haraldsson peut-être, le petit 1-2, c'est bien joué, c'est avec Ismaili dans la surface de réparation, le centre en retrait, ils sont dans le dur un peu les Brestois en ce début de deuxième période, il va falloir l'excellent Pierre Lesmelou pour dégager et ça fait toujours 0-0 après 47 minutes.
Allez, on va retourner à Brest évidemment, mais on va suivre la deuxième manche juste à l'homme parce que Clément Noël va être sur la piste dans quelques secondes, Arnaud Souk.
Effectivement, le dernier slalom de la saison, les finales de la Coupe du Monde à Zalbar qui accueillera les championnats du monde l'an prochain en février 2025 et Clément Noël effectivement qui va tenter de monter sur le podium aujourd'hui pour la cinquième fois de la saison. Il en a quatre pour l'instant mais pas une seule victoire et c'est quand même une anomalie quand on regarde depuis le début de la carrière de Clément Noël qui régulièrement est monté sur la plus haute marche du podium, mais la dernière fois ça remonte à Schladming l'an passé. Il va essayer de mettre fin à cette longue attente. Pour l'instant c'est Manuel Feller qui mène la danse dans ce slalom, l'Autrichien assuré de remporter le petit globe de la spécialité, 52 centièmes devant Marc Rocha et 67 centièmes devant Henrik Kristoffersen. Il a marqué un très très grand coup Manuel Feller en faisant notamment un bas de piste assez exceptionnel, et Clément Noël le Vosgien qui va pouvoir s'élancer dans quelques instants. C'est lui le champion olympique de Yanking en 2022 qui a notamment terminé deuxième fin février sur le slalom de Palissade Tao. C'est parti pour Clément Noël sur cette piste de Zalbar qui s'est pas autant dégradée qu'on aurait pu le penser. Mais Clément Noël qui fait moins bien que Manuel Feller au premier intermédiaire. Il a déjà 6 centièmes de retard. Voyons s'il va être capable de refaire ce petit retard qui est relativement insignifiant. On est sur un slalom très régulier avec des droites et des gauches là pour Clément Noël qui lui permettent de regagner 3 centièmes au deuxième intermédiaire. Est-ce que au troisième intermédiaire il parviendra à lutter avec Manuel Feller? C'est pas évident parce que vraiment sur le troisième intermédiaire, c'est là où Manuel Feller avait fait les différences. La double, elle est bien prise pour Clément Noël. Encore là, une triple très très bien négociée par le Français, mais ça ne suffira pas puisqu'au troisième intermédiaire, il a 37 centièmes de retard. Il faut qu'il limite la casse, Clément Noël, sur le bas du parcours qui lui aussi a été extrêmement bien négocié à la fois par Manuel Feller et par le Suisse Marc Rocha. Il va en terminer dans quelques instants. Clément Noël, est-ce qu'il sera à la lutte? Il sera juste derrière, 23 centièmes derrière Manuel Feller, l'Autrichien. Tout reste jouable pour le podium, mais ça sera une saison blanche en termes de victoire pour Clément Noël, quoi qu'il arrive cette année.
On suivra évidemment la fin de ce Sodom avec toi pour connaître la place définitive de notre Français, Arnaud. On retourne en Ligue 1 avec Lille à l'attaque, Pierre-Yves.
Oui, une grosse frappe qui va passer au-dessus des buts, gardée par Marco Bizot. Ce n'était pas cadré, ben, on parlait de la précision du côté des Lillois. C'est pas le cas avec Nabil Bentaleb qui n'a pas trouvé le cadre et les Brestois qui vont pouvoir repartir. Mais à chaque incursion, comme tu l'expliquais Seb en première période, quand c'est du jeu placé, ça paraît un peu facile à chaque fois pour les Brestois de repousser cette équipe lilloise, et le danger vient plus comme ça d'une frappe un peu lointaine ou d'un contre où là il n'y a pas la possibilité d'avoir le repli défensif suffisant. Mais dans ce jeu placé, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à avoir un but. Ça se confirme en deuxième période.
Ils sont mieux rentrés quand même dans la deuxième période, les Lillois,
que les Brestois.
Pour l'instant, après, ça ne veut rien dire, parce qu'encore une fois, peut-être que justement c'est les Brestois qui vont profiter un petit peu des espaces laissés par Lille. Il y a une opportunité là où Jonathan David, je trouve, il joue mal le coup. Presque il doit frapper directement. Je sais pas, il y a deux minutes là où finalement il a voulu aller sur le 1 contre 1. Ouais. Et justement, il y avait un peu d'espace pour lui. Mais je sais pas ce que t'en penses aussi. Je trouve que Angel Gomez, c'est vraiment le joueur qui, voilà, c'est le détonateur à chaque fois, que ce soit une touche, deux touches. C'est lui qui se met entre les lignes. Il pose beaucoup de problèmes au milieu de terrain brestois depuis là, en tout cas depuis le retour des vestiaires.
Mais même en première période, dans les premières minutes, j'ai trouvé que c'était lui qui
il est vraiment meilleur pour le moment. Quand il n'y avait pas Nabil Bentaleb, c'est lui qui jouait souvent en double pivot avec Benjamin André. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a Nabil Bentaleb, il est avec le ballon, en tout cas il est quasiment en position de 9,5-10 derrière Jonathan David,
plus libre effectivement. Exact, ouais. Et ça permet d'être plus créatif aussi. Ballon une nouvelle fois pour les Brestois avec Chardonnay qui va chercher au deuxième poteau une solution. Ça va être récupéré avant la touche, mais le retour de Loco, lui, peut être un petit peu dangereux pour les Brestois. C'est Perrin Lage qui avait perdu le ballon au départ, et finalement le nouveau repli défensif, la solidarité de cette équipe brestoise où il y a toujours un garçon pour venir vous aider quand vous êtes en difficulté. C'est la preuve, à l'image de ce ballon qui n'a pas pu être amené en position offensive par Zegrova parce qu'il y avait un triple retour. D'abord le ballon perdu par Pereira Lage, ensuite le retour de Loco, et puis un troisième Brestois qui vient au secours, c'est Magnetti. Résultat, ça permet de récupérer le ballon pour les Finistériens. 52e minute, il n'y aura pas faute pour Camara, c'est pas sifflé, et position intéressante pour les hommes d'Éric Roy. Au deuxième poteau, ce sera Pereira Lage, la remise de la tête. Ouah, il était tout près, Satriano, la tête, mais il n'a pas trouvé le cadre. La voilà, la première occasion de la deuxième mi-temps pour les Brestois, et ça réveille à nouveau un petit peu Francis Leblé qui s'endormait après 7 minutes en deuxième période.
J'allais te demander l'ambiance autour de toi, Pierre-Yves, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose derrière toi. Hein.
Non, c'est vrai que c'est pas l'ambiance des grands squares, mais c'est parce qu'il est 13h, voilà, c'est l'heure de la sieste, un peu. Donc, ça s'explique peut-être.
Pierre-Yves, sur cette action-là, je trouve que Del Castillo, il joue mal le coup au départ. C'est qu'il y avait Magnetti qui était tout seul en retrait. Bon, lui, il a joué au deuxième poteau. Mais c'est vrai que je reviens encore une fois sur l'activité de Madi Camara. Voilà, il lâche rien, bon, à l'image un peu de son équipe, hein. Mais c'est souvent lui qui va se projeter, qui va gratter des ballons, et après des fois ça manque un peu de lucidité aussi dans le dernier geste, ouais. L'avant-dernier geste, mais c'est vraiment
dans l'énergie, intéressant. Ouais. Ouais, dans l'énergie c'est très intéressant, effectivement. On va voir si ça tient dans la... Oh, la faute sur les Smelou, monsieur Turpin laisse l'avantage pour Loco. Là il y a des espaces un petit peu pour les Brestois avec Pereira Lage, avec le soutien de Magnetti à 3, peut-être avec Loco. Non, ça repasse derrière par Magnetti, le ballon en profondeur. Ah, ça s'est mal donné en revanche pour Satriano, et les Lillois sont là à nouveau pour récupérer ce ballon avec Thiago Santos. Ah, c'est vite reperdu. Ils ont eu 5-6 bonnes minutes, les Lillois, en deuxième période là, en ce début de deuxième mi-temps, et puis Brest met à nouveau le pied sur le ballon et rééquilibre le match avec une nouvelle attaque qui va s'organiser autour de Brassier, le pied droit de Brassier pour Lesmelou qui joue très bas. pour le moment, avec sur son côté gauche le soutien de Loco, le 1-2 avec Satriano. Non, finalement Satriano qui va aller tout seul, qui frappe, ça passe au-dessus, début une nouvelle fois, nouvelle opportunité, elle est pas très loin au-dessus hein. En tout cas il a tenté sa chance Satriano, il applaudit son partenaire en l'occurrence Del Castillo qui demandait éventuellement le ballon mais qui n'a pas été servi.
C'était le jeu de jouer avec Satriano avec Del Castillo, même si après c'est un attaquant, il sort du dribble et à ce moment-là il décide, donc il va frapper. En plus il a un rôle un peu ingrat, Satriano, comme Mounier d'ailleurs quand il joue, c'est vrai ouais. que ce rôle d'attaquant à Brest il est pas évident, il sert beaucoup d'appui. Solé. Voilà, ouais. il est le premier à les défendre, mais après il a pas toujours des ballons aussi dans les meilleures conditions, donc c'est dès qu'il peut frapper il y va.
Ouais. C'est vrai que c'est à noter à Brest le travail que doit fournir le numéro 9, et c'est le cas là encore pour aller être le premier défenseur. Il le fait très bien d'ailleurs Satriano, mais c'est exigeant physiquement, il faut courir énormément. Steve Mounier le fait très bien également, c'est pour marquer les buts. De temps en temps forcément on manque un peu de force peut-être, là il a tenté ou de lucidité, et peut-être que c'est ce qui a manqué, la lucidité sur l'occasion précédente. Lesmelou, lui, il en a toujours de la lucidité pour aller gratter ce ballon, il n'y aura pas faute. Et là c'est intéressant pour Magnetti, lui va avoir la lucidité aussi. Ah, il a la lucidité mais il n'a pas la qualité pour mettre la balle là où il faut. Il n'empêche que Kenny Lala a pu la récupérer. Finalement il y aura le centre immédiat, le centre en retrait, ça va revenir en deux temps. Kenny Lala, un pied lillois pour stopper, et c'est Haraldsson qui va repartir. Attention au contre, ça peut aller assez vite avec Jonathan David. Il y a un 2 contre 2, Haraldsson qui poursuit sa course, il est dans l'axe, il la remet à David, la frappe immédiate, non, c'est pour Zegrova, le pied gauche, oh, l'arrêt de Bizot encore. Ah, c'était très bien joué, Zegrova qui a mis une belle frappe, un petit peu trop peut-être sur Bizot, mais en tout cas c'était très bien organisé avec la petite talonnade signée Jonathan David. C'est en train de s'allumer là en deuxième mi-temps, ça allait repartir box to box pour les Brestois. Finalement on met le pied sur le ballon, on calme un petit peu l'énergie. 55 minutes de jeu, toujours 0-0, mais des actions.
14h11 sur AMC, c'est l'heure du défi hippique tout de suite.
RMC, le défi hippique.
Avec Mathieu Zaccanini. Salut Mathieu.
Salut Flora, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau défi hippique. Et aujourd'hui, le Quintet Plus se dispute sur l'Hipporome d'Auteuil. Il s'agit d'une belle compétition, le prix Prédicateur, un gros handicap divisé, disputé sur la distance des 3900 mètres dans la discipline des haies. Ils sont 16 sauteurs plutôt à prendre part à cette compétition. Et aujourd'hui, nous sommes avec Axel. Bonjour Axel.
Salut Mathieu.
Alors, Axel, qui est ton favori dans cette épreuve qui est très ouverte avec beaucoup de possibilités?
Alors moi, j'ai choisi le 7 Galop du Large. Je pense qu'il a démontré sa capacité à performer dans cette catégorie en valeur 58 à l'automne. Donc il adore le terrain lourd, donc il est capable de jouer un bon rôle dans ce prix prédicateur.
Bah, c'est une très belle possibilité hein, ce numéro 7 Galop du Large. Nous allons lui opposer le numéro 1 Vision Dureux, qui a réalisé deux bonnes performances hein, dans les grands handicaps quintés en dernier lieu. Il effectue certes une rentrée, mais il fait preuve d'une belle régularité, et comme il est confirmé à ce niveau, on pense qu'il peut inquiéter ce numéro 7 Galop du Large. En tout cas, si le numéro 7 termine devant le numéro 1, tu reviendras demain pour un nouveau défi pic. Bonne chance à toi Axel.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Mathieu. Toujours 0-0 en Ligue 1 entre Brest et Lille. On va faire un détour par l'Autriche, le dernier slalom de la saison. Arnaud Souk, et il n'y aura pas de podium pour notre Français. Hein.
Non, Clément Noël qui termine 5e de ce dernier slalom. C'est le Norvégien Timon Haugan qui s'impose aujourd'hui devant Manuel Feller, l'Autrichien qui lui remporte cette Coupe du Monde de slalom. Il n'en reste plus que deux courses. Ça sera la semaine prochaine, le Super G et la descente de cette finale de la Coupe du Monde de ski alpin.
Merci beaucoup Arnaud. On retourne en Ligue 1. Pierre-Yves Leroux, il y a Eric Roy qui s'agace un petit peu sur son banc là. Hein.
Oui, parce qu'il estime que le carton jaune et la faute sifflée sur Lesmelou pour un ballon récupéré dans les pieds de Thiago Santos.
Il y a faute quand même. Après, carton jaune, peut-être que c'est un peu...
Un peu excessif.
C'est sévère quand même. C'est un petit peu sévère, je trouve. Oui,
tout cas, pas de grosse faute depuis
le
début.
Ballon, en plus,
ouais. Non, et ça offre un bon coup franc pour les Lillois, là, pour le coup. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Bon coup franc pour Lille, on le dit depuis le début de cette rencontre. C'est peut-être sur un coup de pied arrêté que va venir la décision. Ils sont deux à côté du ballon. Il y a Angel Gomez, il y a Zegrova. plutôt dans le ton, je trouve, Zegrova, même s'il n'a pas eu pour l'instant la solution, auteur de 3 buts depuis le début de la saison. Est-ce que ça va être sur coup de pied arrêté qu'il va trouver
la solution? Il est loin en tout cas, ça va être plus être un ballon je pense dans la surface.
On est à 10 mètres à peu près devant la surface de réparation. Moi je verrai bien la tentative directe, ça sera pour Angel Gomez, elle est directe mais elle est directement dans le mur surtout. Zegrova, lui, va faire le centre derrière puisqu'il a récupéré le ballon, c'est dégagé par Brendan Chardonnay. Est-ce que ça va offrir au Brestois un contre? Oui, mais il y a vraiment personne pour aider, là, être en soutien du Brestois qui a récupéré le ballon et qui va le perdre. D'ailleurs, c'était Camara et les Lillois qui vont récupérer tout de suite par Haraldsson. Il n'y avait pas du tout de soutien. C'est le seul Brestois qui était remonté vite, très vite, mais trop isolé pour mettre une action dangereuse derrière. On se rapproche de l'heure de jeu et sans doute des changements à venir. On s'échauffe des deux côtés, Lillois comme Brestois. Il va y avoir un petit peu de turnover dans les minutes.
Ouais, je sens bien du le Doiron ou Mounier ou les deux du côté de,
pour venir
de Brest ou Cabella. Il y a Jitsé du côté de. Je vois pas trop changer les milieux de terrain du côté des deux équipes, même voire des défenses aussi.
Ouais, plus offensivement.
Oui, Jonas Martin pourrait rentrer, mais un petit peu plus tard. Pour faire souffler et tourner quand même ce milieu de terrain qui travaille quand même beaucoup. Hein. Donc au bout d'un moment, on va peut-être voir certains joueurs commencer à tirer un petit peu la langue. 0-0 toujours, Flora, à l'heure de jeu.
Allez, il y a encore du temps pour que ce match se débloque. 0-0, donc toujours 14h15 sur AMC. On revient tout de suite dans l'Intégral Sport. On va aussi vous présenter les autres affiches qui vous attendent dans cette journée de Ligue 1, notamment le multi à 15h. Ce sera avec Benoît Boutron tout à l'heure. À tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
14h18 sur RMC. On est toujours avec Sébastien Piocel. On suit la Ligue 1, ce Brest-Lille avec Pierre-Yves Leroux. Et on n'a rien raté, Pierre-Yves. C'est incroyable.
Non, c'est vrai, 0-0. Mais on n'était pas loin quand même parce qu'il y a eu une action surprenante là, des Lillois avec une attaque côté gauche. La double lame brestoise avec Bizot plus un défenseur. Oh là, attention à Ismaili en revanche qui va pouvoir servir sur le côté gauche. Haraldsson, les contrôles, il va falloir me travailler ça à l'entraînement toute la semaine, des lignes de contrôle.
Il y a pas mal d'erreurs hein, quand même sur les sur
des
pas,
c'est vraiment
sur
dans les derniers gestes ou les choix même aussi là on a vu juste avant là pendant la pub, il y avait encore une opportunité pour les Lillois. C'est quand même eux qui se montrent le plus dangereux même s'il n'y a pas vraiment d'occasion nette. Mais c'est eux quand même qui ont pris un petit peu le dessus même si ça leur garantit rien pour la fin de match.
Oui, effectivement, et sur cette action là où j'évoquais la double lame avec Marco Bizot, derrière le ballon il est repoussé alors moi il me semble qu'elle sort et c'est pas sifflé en sortie de but immédiatement et ça donne potentiellement un but grand ouvert et les Lillois la mettent au-dessus. Alors j'ai l'impression que Clément Turpin avait laissé jouer, en tout cas ça n'a pas porté préjudice au Brestois et là il va y avoir un nouveau coup franc. Clément Turpin qui va aller mettre un carton jaune à Eric Roy,
voilà. Qui lui dit c'est pour moi.
De toute façon les relations avec l'arbitrage ici du côté de Brest depuis le début de la saison c'est toujours un petit peu compliqué et là il y aura quand même un coup franc pour Brest qui va être joué dans un instant. On est encore plus loin que le coup franc de tout à l'heure pour les Lillois qui étaient à une dizaine de mètres devant la surface de réparation. Là il faut doubler la mise, on est à une vingtaine de mètres donc ça ne pourra pas être direct ni pour Kenny Lala qui n'est pas très loin du ballon mais qui s'en éloigne, ni pour Romain Del Castillo en grande discussion avec Clément Turpin au milieu de cette moitié de terrain lilloise. Les supporters brestois qui poussent là et qui sont debout dans leur tribune pour encourager les Brestois. C'est parti pour le pied de Romain Del Castillo au point de pénalty. Il y a la tête de Satriano, il y a la reprise de Lesmelou mais c'est récupéré sans trop de problèmes. C'était Pereira Lage d'ailleurs par Lucas Chevalier. Ouh, Satriano, il est malin, il a essayé au moment de la relance et il refait d'ailleurs à la main de Lucas Chevalier d'essayer de chipper la balle. Mais le portier lillois est attentif et les Lillois qui repartent une nouvelle fois avec Ismaili en deux temps. Ballon poussé trop loin, récupéré par les Brestois qui sur ce coup de pied arrêté auraient peut-être pu faire un petit peu mieux. 0-0 toujours, 65e minute. La pièce ne veut pas tomber pour le moment, ni d'un côté ni de l'autre. On avance petitement, un point partagé pour l'instant. Ça pourrait faire les affaires de Monaco.
Voilà, qui joue tout à l'heure.
Pour aller chercher la deuxième place.
Transition parfaite. Tu vois. Merci beaucoup Pierre-Yves. Monaco, on va en parler dans quelques instants, c'est l'une des affiches qui vous attend à 15h dans le Multiligue 1 que vous allez suivre avec Benoît Boutron et Sébastien Piocel évidemment sur RMC. Monaco-Lorient au programme et Clermont-Le Havre et Reims-Metz. On va retrouver tout de suite Damien Tardieu à Clermont. Salut Damien.
Salut Flora, salut Seb, salut, bienvenue Damien. Au pied des volcans à tout le monde.
Une défaite, hein, Clermont aujourd'hui enterrerait presque définitivement Clermont, et à l'inverse ça donnerait un vrai bol d'air au Havre, hein.
Exactement, tu as tout résumé Flora, parce que Clermont est dans une situation critique, on peut le dire comme ça. Même ici, certains supporters et la plupart même n'y croient plus vraiment. 18e, 17 points à 8 points du barragiste, à 8 points du premier non relégable. Bon, la défaite de Nantes hier, le match qui s'annonce compliqué pour Lorient à Monaco, peut quand même permettre aux Auvergnats, en cas de victoire, de garder un petit espoir. Et puis côté Havre, effectivement, il y a eu cette victoire face à Toulouse la semaine dernière qui est venue stopper une série de 6 matchs sans victoire. Ils n'ont que 4 points d'avance sur le premier relégable, 2 sur le barragiste. Les Havre, ils se disent qu'il y a peut-être un coup à faire ici face à une équipe clermontoise.
Voilà l'ouverture du score pour les Lillois, c'est malin, c'est bien joué et c'est signé évidemment Jonathan David pour son 15e but en Ligue 1, alors que Eric Roy est en pétard parce qu'au début de l'action il y avait eu peut-être une petite faute, un geste du bras sur Camara qui reste au sol. L'action s'est poursuivie, les Lillois ne s'en sont pas souciés, ils ont eu raison, ils ont réussi à tromper Marco Bizot à la 67e minute. C'est Lille qui prend l'avantage, la pièce vient de tourner en faveur des Lillois.
Ouais, difficile, on a revu l'action, Seb, difficile de siffler faute quand même là pour les Brestois, non?
Ouais, mais c'est peut-être le fait qu'il n'ait pas arrêté le jeu, mais en même temps ça va quand même assez vite.
Bah,
hein,
oui.
Non, y a, pour moi il n'y a pas faute déjà. Et puis après derrière il y a quoi? Il y a 4 passes, et encore une fois, bon, on en parlait tout à l'heure. Alors le but il est très joli, mais la passe d'Angel Gomez encore qui cache son intention.
Ouais, ouais.
Et après ça passe entre les jambes de Brandon Chardonnay.
Ouais, ouais, pris à contre-pied.
Bah, voilà, on parlait de contre-attaque un petit peu, voilà, c'était encore une fois une transition rapide des Lillois, un plein axe. Et ben, c'est eux qui sont devant.
Et on va voir si tout ça va déclencher aussi une réaction brestoise, peut-être enfin d'être un peu plus tranchant aussi offensivement. On va suivre tout ça évidemment. 1-0 donc pour Lille face à Brest. On était avec Damien Tardieu qui nous parlait de ce Clermont-Le Havre qui vous attend à 15h, Damien.
Oui, donc je disais pour les Havrais, c'est vrai que c'est une belle occasion, pourquoi pas ici à Clermont de prendre un petit peu d'oxygène. Les Clermontois n'ont gagné qu'un seul de leurs 12 matchs ici au Montpied. Voilà l'objectif des Havrais, c'est de venir s'imposer pour clairement sortir de cette zone assez inconfortable.
Oui, effectivement, à qui dites-vous? Merci beaucoup Damien, on se retrouve tout à l'heure dès 15h pour le Multiligue avec Benoît Boutron et Seb Piocel, où on suivra aussi sur RMC Reims-Metz avec Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut Flora, salut Seb, salut à tous.
Salut Arnaud.
On a parlé de cette défaite de Nantes tout à l'heure, elle offre une très belle opportunité évidemment à Metz de sortir de cette zone rouge dont parlait Damien, surtout que Reims est loin d'être un paillal à domicile en ce moment, hein.
Et surtout que les deux victoires de suite du FC Metz ont été acquises contre Nantes, 2-0 à la Beaujoire, tu t'en souviens j'imagine Sébastien.
Non, de quoi
et contre Clermont le week-end dernier. Donc les Messins gagnent contre des concurrents directs. D'ailleurs ils ont gagné 2 fois contre Clermont et 2 fois aussi contre Nantes. Donc les Messins arrivent avec un peu plus de confiance, la possibilité de sortir de la zone rouge parce qu'ils sont pour l'instant 17e, donc avant-dernier. C'est vrai que Reims, c'est aucune victoire à domicile en 2024, mais avec des prestations récentes qui restent encourageantes. À domicile il y a une défaite avec une bourde du capitaine Younis Abdelhamid contre Lille, mais le contenu fut plutôt intéressant. Et ce match nul au Parc, 2 buts partout, où Reims a montré un visage séduisant, l'image de la première partie de saison. Le hic côté rémois, c'est la blessure du meilleur buteur Teddy Thomas, touché au mollet, 6 réalisations cette saison, remplacé numériquement par Reda Kadra, mais c'est pas la même qualité. Donc va falloir que Will Steele et ses joueurs arrivent à compenser l'apport du meilleur joueur rémois cette saison, le franco-maltais Teddy Thomas.
Merci beaucoup Arnaud, on te retrouvera tout à l'heure donc avec Benoît Boutron et Seb Piocel pour le multiplex Ligue 1 à suivre à partir de 15h. Nous on la suit en ce moment même, la Ligue 1, avec ça y est Lille qui a fait la différence face à Brest. Pierre-Yves, on a vu effectivement Eric Roy assez tendu sur le bord de la pousse. Il y a eu des changements d'ailleurs aussi, hein.
Oui, côté brestois, le but, ils étaient prêts, hein, les changements avant le but, ça n'a pas changé les choix d'Eric Roy, l'entrée en jeu de Doumbia à la place de Camara et de Jonas Martin
Martin à la place de Magnetti. Attention à ce ballon pour Zegrova, le 1-2 avec la frappe signée David, repoussée par Marco Bizzat. On n'était pas très loin du break cette fois pour les Lillois. Ça donnera un corner pour cette équipe de Lille qui pourrait là, dans les minutes qui viennent, faire véritablement pencher la balance, parce que le break n'est pas encore fait. Ils ont pris l'avantage à 1-0, on est dans les 20 dernières minutes, mais pour eux il faut maintenant appuyer un peu plus.
Les Brestois, ils vont un petit peu se découvrir quoi, pour revenir dans ce match là et on a vu qu'ils étaient vraiment à l'aise dans les phases de transition, les Lillois.
Ça peut donner des opportunités effectivement. Est-ce qu'il va être joué à 2? Oui, il est joué à 2, ce corner avec Zegrova, le pied gauche de Zegrova, la tête de Lesmelou, et ça va se terminer par une frappe d'Alson, magnifique, mais au-dessus du cadre. Elle était bien placée, légèrement soulevée au départ, légèrement extérieure du pied droit d'Alson, mais ça passe au-dessus des buts de Marco Bizzat qui relance assez rapidement. Le bloc lillois s'est vite repositionné également. Il y aura d'autres changements très certainement dans quelques minutes, puisque finalement c'est plutôt au milieu de terrain qu'on a pour le moment fait les choix du côté d'Éric Roy. La belle opération lilloise pour le moment qui mène 1-0 ici à Brest, et bah, c'est terminé hein, pour les clean sheets, pour la série clean sheet du côté de Brest. Il y en avait eu 5 matchs consécutifs, ça s'arrête là, et record égalé mais pas battu donc dans l'histoire.
Ça s'était arrêté pour une autre série face à Lens, donc là la série aussi pour l'instant
les petits coups d'arrêt mine de rien.
Oui, ça peut faire 2 défaites consécutives si le score en reste là. Là, ça serait, cette fois, ça serait un petit coup sur la tête très certainement des Brestois s'ils n'arrivent pas à revenir dans cette rencontre. Il reste du temps. On n'est pas encore dans le dernier quart d'heure, mais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à trouver les solutions, et surtout Satriano quand même commence à fatiguer. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est au niveau du poste de numéro 9 qu'on aura un changement dans quelques instants. Ballon pour Benjamin André. Benjamin André qui va revenir derrière avec Thiago Santos. On fait tourner du côté lillois. 12e minute, toujours 1-0 pour Lille.
On va faire un petit point en classement aussi, parce que du coup, avec pour le moment cette victoire qui se dessine pour le LOSC, eh bien Lille revient à un tout petit point de la deuxième place et donc de Brest. Et puis on va rappeler que Monaco joue tout à l'heure aussi à 15h et a la possibilité de reprendre cette deuxième place au Brestois en cas de victoire. Ce sera face à Lorient. Seb, c'est vrai que Brest, deuxième de Ligue 1, c'était déjà un petit exploit. C'est sur ces rencontres-là aussi, face à Lens, face à Lille aujourd'hui, qu'on peut voir aussi les vraies ambitions que peuvent avoir les Brestois cette saison.
Ouais, mais encore une fois, ils ne passent pas à travers. La semaine dernière, face à Lens, ils auraient très bien pu ramener un point de Bollard. Là, ça se joue encore une fois à des détails. Bien sûr qu'on peut parler peut-être d'expérience de haut de tableau, et que y a forcément une pression qui s'est installée depuis des semaines avec à cause de nous aussi. Hein,
on en reparle beaucoup.
À un moment donné ils y pensaient pas, on y pensait pour eux. Mais c'est vrai que ça serait dommage de quelque part de tout gâcher. Même si encore une fois ils sont quand même en cas de défaite, ils seraient toujours devant Lille.
Oui.
Mais ça peut aussi se propager un petit peu dans les têtes et dans les jambes. Surtout que derrière il y a 15 jours de trêve, et on n'aime pas trop se quitter sur une défaite, même si c'est pas encore terminé.
Ce serait la deuxième de rang en plus, effectivement.
Et puis il y a un élément très important aussi, c'est quand vous avez un garçon comme Jonathan David capable d'empiler les buts, ça 15e, aide. Hein,
15e,
ça aide,
je crois.
15e, hein, 15e de Ligue 1, et ça doit être son 15e toute compétition confondue en 2024 en plus. Donc ça, c'est quand même une stat assez incroyable avec les Dogs qui, pour l'instant, mordent de cette équipe brestoise. Satriano, le contrôle de la tête, il est pas bon. C'est dommage, c'est, il était rentré.
Du nez,
mais le nez fait partie de la tête.
Oui, c'est vrai. Moi, je pensais plus au crâne. On va voir s'il est marqué là, le nez. Parce que bon, l'appel était bon en tout cas.
Oui, exactement. C'est dommage que la réalisation derrière soit moins bonne, parce qu'il se retrouvait en belle position. S'il arrive à l'amortir un petit peu plus, ça pouvait amener le danger. Il va être à nouveau servi, Satriano, qui donne à mon avis ses dernières courses dans cette rencontre. Mais il aura mis l'énergie, il n'aura pas été récompensé par un but. Dernier ballon peut-être, ça va être dégagé une nouvelle fois par les Lillois, tout simplement parce que j'aperçois le numéro 9 de Steve Mounier qui est
ça va mettre dans la boîte un peu là.
Ouais, exactement.
On va tenter un peu de choses.
Ouais. Ah, attention quand même. Ah, dommage, parce que Pereira là, j'avais pris le meilleur sur Diakité. Et
là,
Diakité.
C'était de la tête. Hein.
Oui, ouais. C'était bien de la tête. Et ça va donner un corner avec le changement donc pour Mounier. Au moment où justement il y a un corner, c'est pas mal peut-être d'amener Mounier parce qu'on connaît la qualité dans cet exercice du remplaçant de. C'est pas Satriano qui sort justement. Donc on va aussi jouer un peu plus. C'est Pereira à l'âge qui joue. Donc là, on va jouer avec vraiment deux garçons. Avec un 9 et demi où on va changer avec un 4-4-2. On va observer en tout cas le positionnement de Steve Mounier. Ça va être parti pour le corner. Del Castillo qui lève les deux bras. Ça sera au premier poteau. C'est dégagé par Thiago Santos. Ça va revenir avec Doumbia. Mais le bloc lillois remonte très rapidement et oblige cette équipe brestoise à repasser par son camp avec le petit ballon transmis sur le côté droit à Brassier. Brassier qui était venu à la place de Loco et les Brestois bien qui sont menés un but à zéro et qui sur coup de pied arrêté non plus n'arrivent pas à trouver la solution pour le moment au grand désarroi évidemment des supporters qui sont présents ici cet après-midi et qui aimeraient bien voir cette équipe brestoise revenir. Nouvelle opportunité là peut-être avec le 1-2, c'est bien joué entre Del Castillo et Loco. Le ballon est trop court pour emmener sur
alors qu'il avait Doumbia juste à côté.
Il fallait peut-être pas passer les étapes sur ce coup-là. Mais Lesmelou va quand même mériter du ballon dans l'axe. C'est bien joué avec Doumbia. Doumbia pour écarter côté gauche. Une nouvelle fois le centre de Loco. Il faut s'appliquer. Malin, Lesmelou qui laisse passer entre ses jambes. Mais derrière, ce sont des Lillois qui étaient présents.
Il lève un peu le ballon. Mounier est rentré là.
Exactement.
Ouais, un peu plus haut.
Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait eu le changement. Ou alors souffler.
Et pour le Fonseca, pour l'instant, ça bouge pas. Est satisfait de
pour l'instant,
son équipe.
Ça bouge pas, mais ça va pas tarder quand même parce que je vois deux joueurs actuellement en train d'enlever leur chasuble et donc ça va tourner d'ici une ou deux minutes. On donne les dernières consignes aux remplaçants qui vont rentrer. J'arrive pas à les identifier pour le moment parce qu'ils sont positionnés derrière le banc de touche et je n'aperçois que les cheveux, mais je vais vous dire ça dans un instant. Nouveau ballon pour les Brestois. On rentre cette fois dans le dernier quart d'heure. Long ballon de Brendan Chardonnay, il va pas trouver son coéquipier, mais la tête d'Ismaili une nouvelle fois et contre à venir. Attention, il peut être lancé à Haraldsson sur le côté gauche. Ah, il était en course, il a été obligé de se stopper. Fallait jouer un petit peu plus vite sur le coup, mais c'est plus facile à dire quand on est en position haute comme nous ici en tribune de presse. On voit un petit peu mieux le jeu au ras du terrain, c'est pas toujours aussi évident. Les changements à venir côté lillois dans un instant pour les 10 dernières minutes. 1-0 pour Lille pour le moment.
Allez, 14h33 sur AMC. On marque une dernière pause et on va suivre ce dernier quart d'heure avec Pierre-Yves Leroux de ce Brest-Lille. Est-ce que les Brestois vont arriver à revenir à hauteur du LOSC qui mène pour le moment 1-0? A tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
On est de retour sur AMC. Brest qui vient de revenir face à Lille, Pierre-Yves Leroux.
Un partout grâce à Satriano. Il est sur une jambe.
Il
s'est blessé. Il s'est haut, Satriano. Martine à la page. Martine qui
remet.
Il demande à changer parce qu'il est au bout du rouleau. Mais il s'est retourné vers les Celtic Ultra en serrant les poings, en leur disant allez, faut y aller, on est revenu, pourquoi pas faire mieux encore. Sur ce ballon en profondeur, c'est Yoro qui met un tacle. Et derrière, on a bien cru que les Lillois allaient s'en sortir parce que c'était vraiment dangereux. Mais Satriano était là pour aller marquer ce but important, très important, alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes. Brest revient à l'image de cette équipe depuis le début du championnat qui ne lâche rien, qui est toujours là et qui revient à hauteur des Lillois.
Et bravo à Eric Roy aussi parce que même nous avant on pensait qu'il allait faire poste
il
pour
le faire
poste
sortir,
sortir
finalement il est passé dans un 4-4-2 un peu en losange et puis sur l'action encore une fois ça vient de derrière et bon Lémy Yoro qui est un formidable joueur mais et là-dessus bon il se fait un petit peu rouler et enrouler on se sert de son corps là, à l'image de Satriano pour s'appuyer dessus. Et puis Alima, c'est pas Satriano qui est passé, c'est Lala qui est arrivé de derrière. Et voilà, bon, comme on disait, on est sur une fin de match où les Brestois, en fait, ils lâchent jamais, bien aidés par leur public. Soit ils sont pas là par hasard. Hein, donc,
bien sûr, c'est la preuve là, hein, parce qu'ils auraient pu lâcher effectivement en prenant ce premier but et puis derrière avec quand même une équipe lilloise qui est efficace. Et d'ailleurs, et on n'est pas très loin du deuxième but quelques instants auparavant avec Jonathan David qui peut être servi et qui glisse dans la surface de réparation. C'est la deuxième fois d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'est pas très très bien cramponné par rapport à cette pelouse de Leblay, mais c'était très dangereux. On n'était pas loin du break lillois. Et puis finalement, sur l'action qui suit, eh bien c'est Brest qui revient dans la course.
Steve Mounier, ils ont été faits les changements, Pierre-Yves?
Non, ils sont toujours en attente du côté de Lille. En revanche, j'ai l'impression que ça a changé parce que on était parti. Les changements, finalement, ça va être Ounas et pour entrer en jeu avec Cavalero. Et je crois que c'était Gudmundsson qui avait enlevé sa chasuble et qui était prêt à rentrer. Et le but, à mon avis, a fait changer les choix de Fonseca. Et puis du côté brestois, il y aura aussi deux entrées à venir avec Le Douaron et Brahimi dans quelques instants.
Je suis un peu surpris des changements parce que là, on a Ounas qui revient juste dans le groupe, qui était blessé. Alors qu'il y a Kabila et puis même Yagice qui rentre pas, et Cavalero pareil qui fait un peu son retour à la compétition.
Ouais.
Bon, on verra si ça donne raison ou pas à Paulo Fonseca. En tout cas il amène de la vitesse aussi avec Cavalero et puis un peu de la technique en mouvement avec Adam Ounas, quoi.
On va profiter des changements, ouais, messieurs, tu nous détailleras tout ça après, Pierre-Yves. On va juste parler d'un match important. Quand on regarde ce score-là aussi, c'est Monaco qui doit être devant sa télé, évidemment. Monaco qui joue à 15h dans le Multiligue 1 face à Lorient. Et on va retrouver tout de suite à Louis II, Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut Flora, salut Seb, bonjour à
tous.
Salut
Maxime.
Un match évidemment capital dans la lutte pour le maintien pour Lorient, qui va vouloir profiter de la grosse fragilité de Monaco à domicile ces derniers mois. Mais quand on regarde le score aujourd'hui de Brest-Lille, Monaco a un gros coup à jouer aussi.
Exactement, mais Monaco n'a plus gagné à Louis II depuis le mois de décembre. C'était contre Montpellier, seulement 2 points sur 15 pris depuis ici à Louis II. Heureusement qu'à l'extérieur les Monégasques répondent présents, mais évidemment ils vont vouloir rétablir les choses cet après-midi. Il y a une belle opportunité, tu l'as dit, avec toutes ces confrontations en haut du tableau ce week-end. Les Merlus, eux aussi, peuvent profiter de cette défaite nantaise hier soir pour se donner un petit peu d'air sur la zone rouge. Lorient qui d'ailleurs est en grande forme à l'extérieur, 3 victoires consécutives en déplacement à Metz, à Strasbourg et à Rennes. Et pourquoi pas la passe de 4 cet après-midi, ce serait une première dans leur histoire.
Merci beaucoup Maxime. Tout de suite sur RMC, on parie sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec notre expert en paris sportif, Johan Bredov. Salut Johan.
Salut Flora, salut Seb, salut à tous.
Quelles sont les cotes pour ce match?
C'est très déséquilibré en faveur de Monaco. 1,36 seulement la victoire de Monaco. C'est 5,40 le match nul. 7,75 la victoire de Lorient. T'es étonné? Bah oui, parce que vu tout ce que nous a dit Maxime, on pourrait s'attendre à des cotes un petit peu plus équilibré. Seb, il y a peut-être un coup à faire donc pour cette rencontre. Moi, je vous propose pas de résultat sec. Je vous propose juste les deux équipes qui marquent et un but de Wissam Ben Yedder, titulaire donc pour cette rencontre. Et ça, c'est 2,70. La cote est déjà très belle. Seb,
il y a toujours un coup à faire. Oui, il faut y arriver.
Ouais. Et ça, déjà de mettre un pari.
Moi, je me réfère plus à ce que nous a dit Maxime. Je vois bien le match nul parce que je sais qu'il est bien coté.
5,40.
Et en général, ça, c'est des matchs assez serrés entre les deux formations. Donc Monaco qui a un peu de mal. Voilà, je vois match nul, sec.
5,40. Et il y a eu beaucoup de deux partout, notamment dans les dernières confrontations entre les deux équipes. Pour les plus superstitieux, c'est coté à 15. Voilà, tu peux y aller. Ça.
Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
15h pour ce Monaco-Lorient dans le multi. En attendant, on suit la fin de match très tendue entre Brest et Lille. Pierre-Yves, il y a encore une grosse parade du gardien brestois.
Et Marco Bizot qui est à l'œuvre sur cette frappe de Benjamin André qui était cadré. Et ça va donner un corner à l'avantage de cette équipe lilloise qui a donc vu Brest revenir à sa hauteur après avoir ouvert le score. Les Lillois qui pensaient peut-être avoir fait le plus dur. Corner de la droite vers la gauche qui va être frappé dans un instant par Angel Gomez avec le soutien d'Adam Mounas, entré en jeu donc il y a quelques instants. C'est parti pour Angel Gomez, ça sera très mal tiré au premier poteau et dégagé.
Heureusement qu'il a dit à Mounas de pas tirer.
En revanche, Mounas va quand même récupérer le ballon et mettre le danger dans la surface de réparation. Marco Bizot qui s'impose une nouvelle fois dans les airs, impeccable. Le portier à Brestois qui dégage au pied rapidement, ça s'est bien joué pour Doumbia. Attention, il y a un 2 contre 2. Si Doumbia passe, mais il ne passe pas et il n'y aura pas faute parce que Thiago Santos a été le meilleur dans ce 1 contre 1 et les Lillois qui vont poursuivre l'action. On sent que là ça peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre. Moi je me méfie très j'allais dire très beaucoup, mais c'est pas
très
français.
Très fortement
de Adam Mounas et de ses capacités offensives, à l'image là du carton qu'il vient de provoquer avec la faute de Loco et donner un très bon coup franc. J'aime beaucoup ce joueur, c'est vrai qu'il est techniquement vraiment.
Très beaucoup, très intéressant.
Très beaucoup intéressant. Il l'a prouvé là encore. Est-ce qu'on va lui laisser tirer le coup franc? Non, apparemment. On va voir, mais Angel Gomez est
très actif. En tout cas,
Eric Croix est fou sur le placement là, défensif sur le coup franc lillois. Là, c'est...
D'ailleurs, le quatrième arbitre vient le voir en lui demandant de revenir.
Là, il n'y a même plus question de zone technique. Là, il est près du poteau de corner.
Si, il lui montre. Mais si, juste... Là, il est en train de faire un numéro en lui montrant. Mais là, elle est là, la zone technique.
Oui, mais c'est pas la tienne.
C'est ça. Ah non, mais c'est un sketch à chaque fois, Eric Croix, avec qui s'agace. Et c'est vrai qu'il y a danger, en tout cas, pour son équipe, avec ce coup franc qui va être frappé par Adam Mounas. Cette fois, il a dit Angel Gomez. Écoute, je viens de voir ton corner, s'il te plaît, laisse-moi tirer. Je vais essayer de te montrer comment on fait pour essayer de lever un ballon. Le pied gauche de Adam Mounas, deux hommes dans le mur, c'est parti, c'est bien tiré au premier poteau. Ouah, c'était chaud, c'est repoussé par Bizot qui a pris un coup, qui reste au sol. Là, monsieur l'arbitre, il faut arrêter l'action. Voilà, Clément Turpin qui. Je sais pas, mais en tout cas, il reste au sol. C'était très bien tiré de la part de Adam Mounas, un ballon très vicieux qui vient au ras du poteau, là, au premier poteau. Et le jeu est arrêté. 83e minute.
Ouais, il a pris le poteau. Il fait un bel arrêt, hein, parce que il est quand même masqué jusqu'au dernier moment.
Genou, le genou qui tape sur le poteau.
Il
entrait
presque un carton jaune au poteau. Ça, une faute.
Obstruction.
Eh bien, on va remettre le ballon en jeu. Petit 1-2 qui va être donné entre Brestois et Lillois. Non, il n'y a pas de Lillois qui.
C'est pas évident à gérer cette fin de match parce que finalement, ça convient à personne ce nul. Bah, à la rigueur, peut-être plus à Brest. Parce que ça permet de laisser Lille d'avoir par rapport au fil du match,
mais c'est ça.
Quand on peut pas gagner un match, il faut au moins essayer de ne pas le perdre. C'était le discours de Jocelyn Gourvennec hier. Ça vaut aussi pour cette rencontre. Les Brestois et les Lillois vont peut-être eux être capables de le faire, même si là ce sont les Lillois qui poussent. Sur ce côté droit, à nouveau, ça passe beaucoup par ce côté droit avec Thiago Santos, avec Ounas qui est rentré en jeu il y a quelques instants. Thiago Santos qui récupère le ballon, mais il y a une nasse brestoise pour les empêcher de sortir. Et là, il y a Brendan Chardonnay qui vient de jaillir de sa défense pour un 3 contre 3 ou 3 contre 4. Les Lillois qui essaient de se replacer. Brahimi qui va centrer. Est-ce qu'il n'y a pas une main? Est-ce qu'il n'y a pas une main? On réclame une main du côté de Brahimi dans la surface de réparation. Clément Turpin fait signe que non. Ça va peut-être être checké. C'est arrivé jusqu'au bras de Lucas Chevalier.
C'est mal joué de la part de Brahimi parce qu'il veut la jouer en une, alors que justement il a le temps d'aller fixer pour qu'il y ait ou un autre joueur de Brest qui arrive ou là où on voit le ralenti.
Ouais.
Je veux pas être la main.
Il a mis la main à l'oreille Clément Turpin très rapidement, mais il a laissé entendre que voilà, c'était checké et qu'il n'y avait pas main, et donc on poursuit le jeu. On rentre le temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel entre Lillois et Brestois pour essayer de faire le break dans cette course à l'Europe. Pour l'instant, c'est le partage des points. Ça aurait été une partie plaisante, acharnée, pour essayer de faire pencher la balance. Ce sont les Lillois qui ont été les premiers à le faire avec cette ouverture du score signée tout à l'heure de la part de Jonathan David. Il y a eu l'égalisation de Satriano. Les Brestois qui sont à l'attaque à nouveau avec Brahimi qui joue mal le coup une deuxième fois. Il aura encore une chance, il va falloir mieux exploiter ça. Voilà, il est passé, faut la mettre à droite, c'est bien joué ça avec du soutien côté Brestois. Brahimi peut-être pour la frappe, elle est détournée. Oh, ça va donner un corner, elle était cadrée. Ouais, ça pousse, le blé qui pousse pour arracher, pourquoi pas, une victoire très importante si elle venait. En tout cas, je vois la tête. Je vois la tête de Mounier, je vois son nez, mais je ne sais pas encore s'il va l'utiliser, s'il va être servi. Mais il y a pourquoi pas la possibilité, en tout cas, de faire, allez, pas un hold-up, parce que ça peut basculer pour les Brestois comme pour les Lillois, mais il y a la possibilité de faire un gros coup pour les Brestois. Sur ce coup-là, on est dans le temps additionnel, un partout entre les deux équipes. Le corner frappé par Kenny Lala, le pied droit, c'est profond, ça sera une tête lilloise pour dégager le danger, et ça va revenir quand même avec Loco, si c'est bien mis. Non, ça va filer en touche. Ça file en touche pour les Lillois qui vont pouvoir repartir à l'attaque dans quelques instants. Pour ces dernières secondes, on est dans le temps additionnel encore pour deux petites minutes ici à Francis Leblay. Je crois qu'on va se diriger vers un partage des points. Même Paolo Fonseca remet sa veste comme si il fallait sortir rapidement, sortir de cette grande pièce de Leblay qui n'aura pas permis aux Lillois de venir prendre 3 points. Le ballon une dernière fois peut-être dans les pieds des Brestois avec Lesmelo. On a l'impression que là on se contente, on commence à se contenter finalement de ce match nul. Brendan Chardonnay, Eric Roy qui ne donne pas forcément de consignes spéciales, pas prendre de danger évidemment. Un ballon pour Loco sur le côté gauche. Loco qui s'avance dans son couloir, on ne vient pas le chercher, donc il continue. Adam Mounas qui était venu, non, c'est Benjamin André. Loco qui est servi, qui tente un grand pont à la 93e, c'est osé, mais il va quand même récupérer le ballon. Le doigt rond, la frappe de Louvain, elle est dévissée cette frappe, alors qu'il se retrouvait dans une position intéressante, mais il fallait enrouler, il ne fallait pas que ça parte extérieur. Ouais,
il a vite enchaîné, donc après c'est pareil, hein, c'était le jeu, hein, de tenter la frappe.
Ouais, l'angle n'était pas évident parce qu'il y avait les défenseurs lillois qui étaient encore là, et finalement le pied dévisse légèrement, et le dégagement de Lucas Chevalier dans quelques instants. Est-ce qu'il y aura une dernière opportunité? Tout le monde se retrouve en milieu de terrain. Clément Turpin qui surveille le chrono et qui siffle la fin du match. Partage des points ici à Leblay dans la course à l'Europe. Jonathan David avait ouvert le score à la 67e, égalisation de Satriano à la 79e. Spectacle plaisant, mais partage des points qui n'arrange peut-être pas forcément les deux équipes.
Merci beaucoup Pierre-Yves, on va faire un petit point classement effectivement, parce que Brest du coup conserve sa deuxième place, Lille est toujours cinquième. On va rappeler que Monaco joue dans quelques instants dans le multi à 15h face à Lorient à Louis II, et que donc Monaco peut reprendre la deuxième place au stade brestois. Seb, finalement quand on regarde ce match et la physionomie et le résultat final, c'est plutôt logique finalement.
Ouais, c'est vrai que c'est logique, ça a été assez partagé, il n'y a pas eu vraiment de temps fort ou temps faible pour l'une ou l'autre équipe,
ouais.
Ça a alterné un petit peu. Et puis Brest a eu le mérite, voilà, de ne pas se désorganiser et puis de pouvoir égaliser. Voilà, ils sont à leur place. Les Lillois auront quand même peut-être un peu plus de regrets vu la physionomie du match.
Merci beaucoup Seb. Tu restes évidemment sur RMC dans quelques instants. C'est Benoît Boutron qui prend le relais pour le Multi Ligue 1. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC Intégral Foot Ligue 1.